Reste une pellicule, le podcast de Time Slips qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on décide ensemble si on veut les sauver ou non. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui le film qu'on réanime, c'est Le 13e guerrier. Pour en parler, moi c'est Léa et petit tour de table des gens réunis aujourd'hui. Alors avec ses cheveux châtains et sa barbe soyeuse, il pourrait passer pour un viking. Ce soir avec nous c'est Grégoire.
Coucou.
Et Grégoire, en un mot, le 13e guerrier, ça t'évoque quoi?
Fury.
Ok.
C'est cohérent, vous comprendrez.
Je comprends.
Merci.
Oui. Avec ses cheveux soyeux et sa barbe de viking, il pourrait passer pour un viking justement. Ce soir avec nous c'est Galien.
Salut.
Et Galien, pour toi, le 13e guerrier, ça t'évoque quoi?
Vincent Lacoste.
Avec ses cheveux soyeux et sa moustache, il pourrait passer pour un viking. Giboite.
Bonjour.
Le 13e guerrier, ça t'évoque quoi comme en un mot?
En un mot, bon, je vais tricher, choc des cultures.
Ok, oui. Mais on a que des vikings avec nous. Ah mais non, parce qu'il a un teint. Allez, il peut être l'arabe de notre troupe. Est-ce qu'il serait pas un petit peu espagnol par hasard? C'est Eric.
Salut, bonsoir. Alors mon mot à moi, ça va être décapitation.
Décapitation, ok.
Et elle n'est pas très grande, elle a des cheveux châtains et des yeux bleus. Elle pourrait très bien être une viking également. C'est Léa à la présentation.
Oui. Sinon, bon, les gens, est-ce que vous avez déjà vu le film avant le podcast?
Alors j'avais déjà vu, pas au moment de sa sortie. Je l'avais loupé quand il était sorti en salle, même si je me souviens très bien. Je l'ai rattrapé assez rapidement après, 2-3 ans après le début de la sortie. Quand Internet a commencé à se développer, qu'on a pu commencer à voler les films en DVX.
Tu es donc un pirate, peut-être un viking, mais ouais. Un pirate. Et toi, Jibote?
Moi, je l'ai vu pour la première fois du coup pour cet épisode. Après, j'en avais beaucoup entendu parler durant mes études en BTS, où j'avais mon prof de cinéma, justement, enfin de culture cinéma, etc., qui était absolument fan de ce film et qui disait non, mais c'est une honte, c'est un film qui a été ultra censuré, on n'aura jamais la version finale du film. Vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, bah là, pour l'occasion de cet épisode, ça avait piqué ma curiosité de mais c'était quoi cette histoire derrière qu'il nous racontait sur le 13e guerrier.
Et toi, Galien?
Pour moi, Inconnu au bataillon.
Mais voilà. Tu l'as vu quand même pour le podcast?
Ah bah oui. Quand même.
Je sais, je rigole.
Hier soir.
Et toi, Grégoire?
Alors moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, notamment parce que quand il est sorti au cinéma, j'avais 1 an. Mais, je crois.
Oh, le bébé.
Il est sorti en quoi, 99?
99.
Ouais, exactement. Et du coup, on m'en avait parlé quelques fois en me disant, il est trop bien. Et à chaque fois que j'ai vu la bande-annonce, je n'ai pas réitéré. Mais du coup, je l'ai vu pour le podcast.
Ok, moi pour le coup, je l'ai vu pour le podcast. Et quand j'en ai un petit peu parlé autour de moi, tout le monde m'a dit ah ouais, le 13e guerrier, c'est le film où Antonio Banderas joue un arabe. Tu vois, genre ok, donc c'est vraiment le truc connu de ce film. Et justement, par rapport au contexte, donc c'est Giboite qui va nous mettre un petit peu de contexte aujourd'hui. Le 13e guerrier, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on dit que ça s'est crashé?
Alors, Le 13e guerrier, c'est un film qui est sorti en 1999. Il dure 1h40 et a été réalisé par John McTiernan et est basé sur un roman de Michael Crichton appelé Le Royaume de Rodgar en français ou Eater of the Dead en anglais ou même aujourd'hui Le 13e guerrier. Si vous connaissez pas ces deux gugus, ce sont probablement deux des personnes les plus prolifiques d'Hollywood durant les années 90. McTiernan est entre autres le réalisateur de petits films comme Die Hard 1 et 3, ainsi que Predator, pour ne citer que cela. Et Crichton, c'est entre autres l'auteur de Jurassic Park, Congo, Sphère, Twister, Westworld, Urgence, bref, des mecs pas très connus et pas très populaires à ce moment-là. Ce film, c'est une très grosse production. Derrière, c'est Walt Disney Pictures qui produit, représenté par Touchstone, qui est la filiale des films un peu plus pour adultes de Disney. Au casting, même concept, dans le rôle principal, on a Antonio Banderas, l'acteur espagnol qui s'était fait connaître au début de sa carrière dans des films de Pedro Almodovar dans les années 80 et qui, en 98, soit un an avant la sortie du 13e guerrier, joue dans Le Masque de Zorro, qui était un film qui a eu un gros gros succès à l'époque. Pour l'accompagner, globalement, pas beaucoup d'acteurs connus, hormis évidemment Omar Sharif qui apparaît au début du film et Vladimir Kulik que vous avez peut-être déjà vu dans la saison 1 de la série Viking de la chaîne History. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gros noms au casting. Sur le papier, nous avons la recette d'un grand succès en devenir. Mais quelques déboires durant le tournage vont venir pimenter un petit peu l'affaire. Déjà, McTiernan, par souci d'authenticité, a voulu tourner en extérieur, en Colombie-Britannique, soit tout à l'ouest du Canada, afin de recréer le mieux possible cette ambiance nordique qu'il y a dans l'œuvre originale. Des décors en dur, en pleine nature, ça coûte cher, des conditions météo épouvantables, un acteur qui a failli se noyer durant le tournage, ainsi que des blessures durant les scènes de bataille. Bref, ça va être assez mouvementé et ça va pas mal faire gonfler le budget. Le tournage a été difficile, mais qui aboutira tout de même assez rapidement sur un montage par McTiernan et ses équipes qui sera diffusé lors d'une projection test en 1998. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Les spectateurs et producteurs n'ont pas vraiment apprécié le côté trop réaliste du film. Ils le trouvent trop sombre, volontairement anticlimatique. Des éléments fantastiques soi-disant présents ne le sont en fait pas et les gens n'ont pas aimé cela. À partir de là, les producteurs du coup vont s'inquiéter et Michael Crichton, donc l'auteur du roman original mais qui est aussi co-producteur du film, va reprendre le bébé en main. Après tout, c'est lui qui a écrit l'histoire originale. Il va repartir en salle de montage, va jarter le compositeur de la musique pour finalement mettre Jerry Goldsmith. Donc on va passer d'une BO un peu plus ethnique, tribale, à quelque chose de complètement épique, comme l'habitude de faire Goldsmith. Le titre du film va être également modifié. On passe de Eater of the Dead, les mangeurs de mort, donc le même nom que le roman original, au 13e guerrier, afin d'être sûr d'attirer un public assez varié, globalement tout public, vu qu'il me semble que le film est interdit au moins de 12 ans à cause de quelques scènes un peu gore. Bien gore quand même, il y a pas mal de gore. Et c'est cette version qui va sortir du coup en 1999 dans les salles du monde entier et qui va faire un flop absolument monumental, sauf en France, étonnamment, où le film a fait quand même 1 200 000 entrées durant son exploitation, ce qui est pas trop mal. Mais le mal est fait, et pour un budget estimé entre 85 et 160 millions de dollars, le film ne récoltera à l'international que 61,7 millions. Alors rappelons quand même que l'année 99, c'est une année assez folle pour le cinéma, et surtout le cinéma américain. Rappelons que cette année-là, on a Rush Hour, Stuart Little, La Menace Fantôme, Matrix, Ghost Dog, Eyes Wide Shut, Le Géant de Fer, Tarzan, Dans la peau de John Malkovich, Fight Club, La Momie, Le Monde ne suffit pas, Blair Witch Project, et à la même période que Le 13e Guerrier, Le Sixième Sens de Shyamalan.
C'est pas 98 Matrix ?
Moi j'ai regardé du coup les films sortis, il est souvent marqué comme 99.
Okay.
Il me semblait aussi que c'était 98, mais écoute.
Ma question c'est pourquoi il y a Stuart Little dans la liste ?
J'ai pris les films de 99, j'étais enfant et pour moi Stuart Little c'est un gros film.
Ça doit être dans le box office aussi, hein. C'est quand même hyper connu Stuart Little, c'est un peu cheap maintenant mais.
Je voulais juste cracher, j'ai toujours jamais pu blairer ce film et donc je voulais juste cracher dessus gratuitement.
Et encore, j'ai pas fait toute la liste des films qui sont sortis en 99.
Et on t'en remerciera jamais assez.
Parce que, non mais en vrai, c'est une année vraiment folle chez les Américains, quoi. Il y a trop de gros trucs qui sont sortis à ce moment-là. Ça explique, je pense, aussi pourquoi il est un peu passé sous le radar.
98 aussi, hein, parce que bah, moi, c'est mon année de sortie aussi. Et
T'es sorti de la chatte à ta mère.
Ouais,
je suis désolé.
En pré-production pendant 9 mois.
Et en vrai, je suis assez fier parce qu'il y a plein de gros machins qui sont sortis cette année-là, mais je pourrais pas t'en citer plus de. Je pourrais pas t'en citer.
Merci pour cette intervention.
Non, mais surtout, il y a eu 2-3 années où vraiment ça a cartonné, c'est ouais. Ce que je veux dire.
L'échec du film va au fil des années engrainer pas mal de rumeurs autour de sa production, et notamment autour de la première version qui avait été faite par McTiernan, qui apparemment durerait une demi-heure de plus. Complètement différent de celle de Crichton, qui aurait charcuté le film dans tous les sens, complètement changé le rythme, voire le sens de l'histoire. Il s'avère aujourd'hui que ces rumeurs sont complètement fausses, ça a été démenti dans des interviews de ressorties Blu-ray, etc., dans les bonus et tout, où en fait la version de McTiernan ne durait que seulement 5-10 minutes de plus, et même s'il est avéré que le montage de Crichton est un peu plus abrupt que l'original, globalement le sens du film, l'histoire présentée, c'était sensiblement la même chose.
Après aussi il y a ce passif de McTiernan où justement il est assez connu pour avoir été charcuté par par des sorties au cinéma. Bah, typiquement Rollerball, c'est assez connu.
Ah, mais j'ai appris, oui, bah, il a fini en prison à cause de Rollerball, en fait, parce qu'il avait, mis sur écoute son producteur pour être sûr de ne pas se faire avoir.
Il a menti à un agent fédéral, et ça, faut pas faire.
Et à ce moment-là, McTiernan, 13e guerrier, c'est un peu le début de la fin pour sa carrière. Il y a quand même un succès juste après, j'ai oublié le nom, mais qui est tiré d'un roman aussi. Mais globalement, bah, Rollerball, ça a bidé. 13e guerrier, ça a bidé. Il y a un film qui a un peu eu de succès.
Robocop, c'est avant. Non, Robocop, c'est bien avant.
Mais Robocop, c'est pas lui.
Ah non, c'est pas lui, surtout.
Non, par contre, juste
il a
avant.
Pas fait un Robocop ?
Ah non. Pardon. Sachant que. Il a fait Predator.
Sachant que juste avant 13e guerrier, McTiernan, il est un peu re sur la pente ascendante parce qu'il sort quand même Die Hard 3.
C'est ça.
Mais avant Die Hard 3, c'était un peu aussi le début du non-succès parce qu'il fait Last Action Hero. Alors tout le monde aujourd'hui dit, bah, le film, il est incroyable, etc. Mais à l'époque, c'était un gros bide.
C'est Verhoeven, hein, Robocop, si je me
trompe. Alors le premier et le 2, c'est celui qui a fait l'Empire contre-attaque.
En fait, je suis en train de regarder, il a enchaîné vraiment genre Predator, Piège du cristal, à la poursuite d'Octobre rouge.
Ouais.
Banger.
Au début de sa carrière, c'est une
folie,
hein.
Medicine Man, j'en ai jamais entendu parler.
Si, il était pas fou, moi je l'ai vu en salle.
Voilà, Last Action Hero qui avait pas très bien marché. Retour à Die Hard, 13ème guerrier, puis alors après Thomas Crown.
Thomas Crown, ouais, il est pas mal ce film.
Ok, my bad alors. Et puis après Rollerball et Basic, j'ai entendu parler.
Voilà, et il a arrêté sa carrière après, bah, parce qu'il a fini en tôle, hein, tout simplement. Et il a été complètement conspué par Hollywood, hein, après son année de prison, parce qu'il a fait qu'une année ferme. Aujourd'hui, du coup, si on se réintéresse au 13e guerrier et qu'on regarde les notes du film, il est à 33% pour les critiques sur Rotten Tomatoes, qui reproche le film un scénario qui est trop faible, même s'il y a de superbes décors et une superbe atmosphère. Côté spectateur, le film est un peu plus populaire, il est aujourd'hui à 66%, et globalement, beaucoup de gens au fil des années trouvent que le film est quand même assez sous-coté par rapport à sa réception initiale. Sur Allociné, il a une note moyenne de 3,1, et sur IMDB, il se coltine la jolie note de 6,6 sur 10, ce qui est tout à fait honorable.
Est-ce que tu as lu le livre Gibbot?
Non.
Et toi, tu as lu le livre,
oui, Eric? Je l'ai lu pour préparer le podcast, donc pour le coup, c'est pas...
Oh, waouh, studieux.
Oui. Et oui, après, j'aime bien les livres de Christian d'une façon générale. Je les ai pas tous lus, mais il y en a fait quelques-uns qui sont des espèces de techno, des livres techno, en même temps techno et en même temps un peu science-fiction. C'est déjà un peu Jurassic Park, mais il y en a qui est fait avec des histoires de voyages dans le temps. Très sympa.
Et c'est un film qui est pas très... Justement, c'est un livre qui n'est pas très épais. Alors j'ai l'impression...
Il fait 150 pages.
Oui, voilà, c'est tout petit,
c'est
en fait.
Ouais, c'est pour ça que je l'ai lu en 2-3 jours.
Ouais, ok.
Ça se fait vite fait, bien fait.
Et à noter que le bouquin, donc il est sorti en 76, il me semble, 75, et avait pas eu un très très gros succès à l'époque non plus.
Oui. Après, on pourrait se dire 150 pages pour 1h30, c'est peu. Rappelons qu'avec les 300 pages du Hobbit, ils ont fait 9 heures de film. Donc, oui, à partir de là.
Donc, voilà, donc je vais pouvoir être le mec un peu relou qui va faire les comparaisons entre.
Actually. Ok, et bah on est parti pour le résumé du film. Et pour commencer tout ça, c'est Giboite à nouveau.
Et coucou, c'est re-moi. Le film s'ouvre sur un magnifique drakkar en 3D pris dans la tempête. Plusieurs hommes sont dessus à lutter contre les éléments et on s'intéresse à l'un d'entre eux, Ahmed Ibn Farhan, Ibn Al-Abbas, Ibn Rashid, Ibn Hamad. Oui, j'ai tout noté.
Oh putain.
Notre protagoniste incarné par Antonio Banderas. Celui-ci explique en voix off comment il en est arrivé là. Donc là, vous mettez un freeze frame, scratch noise, vous lancez Babor à Ilédéou et il va vous expliquer tout ce qui s'est passé pour qu'il arrive sur ce drakkar au milieu de l'océan.
Je suis désolé, moi je voulais l'appeler Antonio pendant tout le film. Et ensuite, dans cette scène, il y a un mec derrière qui est plus ou moins en train de crever.
Oui,
on voit avec la langue qui pend.
Oui.
Et ça m'a fait hurler de rire. À chaque fois qu'on voit ce mec, j'explose de rire. C'est pas possible.
Oui, c'est vrai qu'il a tout le temps l'air malade. Du coup, Ahmed va nous expliquer qu'avant d'arriver là, il était un poète à Bagdad où il vivait peinard jusqu'au jour où il a commencé à courtiser la femme de quelqu'un d'autre. Et après une plainte du mari au calife, Ahmed fut envoyé dans un autre pays au nord pour servir d'ambassadeur. Bref, il a été banni et on commence à le suivre qui traverse l'Europe de l'Est, qu'il dit peuplée de barbares, sur son chameau avec son ami Melchizedek, incarné par Omar Sharif.
Le tir, c'est sa grande passion.
Exactement. Il traverse plusieurs contrées jusqu'à arriver sur les terres tartares, peuplées de bandits, qui attaquent les caravanes et... Oh, manque de bol, ils se font attaquer par des cavaliers tartares, c'est ballon.
Juste alors.
Bref, course-poursuite dans les steppes sauvages.
Les steaks tartares.
J'attendais que quelqu'un le fasse.
Oh mon dieu.
Donc, bref, poursuite dans les steppes et non pas les steaks sauvages, la caravane dévale une pente et se trouve au bord d'un fleuve. Et surprise, les cavaliers tartares ne les poursuivent pas, car un navire viking apparaît sur le cours d'eau. N'étant pas spécialement rassuré par cette possible rencontre, Ahmed et son ami, on notera que le reste de la caravane a disparu, d'un plan à l'autre, arrivent à un camp viking un peu plus loin et cherchent à rencontrer le chef. Pour mettre un peu de contexte, le film semble se dérouler entre le 8e et le 11e siècle, oui j'ai fait un peu de recherche, soit pile pendant l'apogée du monde islamique et les invasions vikings. Du coup, c'est pas si incohérent qu'ils se rencontrent au final à cet endroit. La thématique du film est beaucoup axée, et notamment sur l'intro, sur la confrontation de deux civilisations différentes. Les Arabes, très cultivés, très lettrés, ils sont vraiment à leur apogée à cette époque, face aux Vikings, où a priori ils ont une culture plus primitive, et on va découvrir peut-être que c'est pas trop le cas pendant le film. Bref. Nos deux protagonistes pénètrent dans la tente principale du camp et Ahmed est très observateur. C'est la cohue, ça braille, ça boostifaille, bref, ça fait la fête. Il peine à parler à quelqu'un, mais son ami arrive à trouver un viking parlant grec. Et Ahmed arrive grosso modo à communiquer par traducteur interposé.
Par contre, c'est super chiant parce que t'entends les deux voix, c'est comme dans les documentaires.
Ouais.
Et moi, ça m'a trigger de ouf.
T'entends les deux voix.
Les voix qui se superposent.
Les voix qui se superposent.
Trois voix qui se superposent.
Ouais, t'entends trois voix. Enfin, c'est comme les documentaires, tu sais, où il y a le mec qui.
C'est doublé par-dessus, ouais.
Donc c'est doublé par-dessus. Et donc t'entends les différentes voix.
Et il n'y a pas ça en VO?
Non, mais en VF, il y a ça.
D'accord.
Ah,
okay.
Ah, vous n'avez pas en VO?
Non, en VO, tu comprends juste pas ce qu'ils disent, en fait.
Ah, c'est oui. Trop bien. Non, mais là, tu comprends pas. Mais juste qu'il y a un mec qui parle, puis il y a l'autre qui traduit en grec, et puis t'entends la voix en français. En VF.
Ah.
Et c'était l'angoisse dans mes oreilles. Un câble.
Ah oui, non, mais je crois que ça m'a pas gêné en VO, je crois pas qu'il y ait ça.
Ok.
Non, l'immersion fonctionnait plutôt bien, je trouve, justement sur cette séquence-là.
Juste, il y a un truc, à un moment, il dit tente, enfin, c'est sous-titré tente, et le mot qu'on comprend, c'est tabernacle.
Oui.
Puis c'est genre, oui, il dit tabernacle.
Si jamais on est. Ça veut dire tente, tabernacle ?
Un tabernacle, c'est une tente, pour le
D'accord.
coup. Donc, c'est une tente, dans la religion juive, c'est une tente sacrée, c'est là où Dieu est. Normalement, il me semble, un truc comme ça.
Ah, je le connaissais que le juron de nos amis québécois.
Bah, tu sais, c'est comme Chris, c'est des trucs.
Et pour les cathos, le tabernacle, c'est une espèce de petit bidule, une petite maisonnette où tu fous du pain.
J'ai fait des cours de catéchisme et je sais même pas ça, quoi.
Ah, toi aussi.
Oui,
je me sens moins seul.
Ils apprennent qu'ils sont arrivés, du coup, à l'enterrement du roi. Et ils font la rencontre de. Bullywolf, que je vais appeler Beowulf pendant tout le résumé.
Alors,
parce qu'il est complètement inspiré de Beowulf.
Samuel Le Bihan.
Quoi ?
Samuel Le Bihan.
J'avoue, il a grave un air à Samuel Le Bihan.
Il ne joue pas comme Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan ne joue pas. Voilà, son jeu d'acteur, c'est de ne pas jouer.
Moi, j'ai même cru qu'il avait une perruque.
C'est le pacte des loups, en fait.
C'est quoi ?
Le pacte des loups ?
Oui, je suis en train de remater le pacte des loups, justement.
Ouais,
premier degré, au début, je croyais qu'il avait une perruque, le mec.
Bah, il a peut-être une perruque, hein.
Non, mais très moche.
Oui, ah, oui. Moi, il m'a pas fait penser à Samuel Le Bihan, il m'a fait penser à. Merde.
Christophe Lambert.
Dans Mortal Kombat.
Bah, il a joué un film qui s'appelle Beowulf, dans lequel il joue Beowulf.
Ah, c'est vrai.
Moi, il m'a fait penser à Francis Lane dans Asterix Obélix, les Jeux Olympiques.
Aussi, c'est. Voilà.
Samuel Le Beowulf.
Bref, alors que c'est sa vraie couleur de cheveux, hein, au gars. Et pour le coup, alors, on parlera du fait qu'ils ont casté Antonio Banderas pour jouer un arabe, mais tous les acteurs qui jouent les Vikings sont des acteurs scandinaves.
Oui, j'ai regardé après, celui qui ressemble à Perceval, il me.
C'est que des Norvégiens, effectivement. Sauf le roux, je crois, qui est écossais, mais d'autre côté, il joue un écossais.
Bah ouais, c'est ça, il joue. Bon, bref, on continue.
Mais ça, on en reparlera après, oui. J'ai un truc à dire dessus.
Donc, ils ont fait la rencontre de Beowulf, qui est le principal prétendant au trône. Il papote rapidement, il y a Beowulf qui lui demande de réciter un poème, vu qu'a priori, il est poète. Et en fait, il y a un mec un peu nerveux qui est à côté de Beowulf, que je suppose être son frère, ou du moins un autre prétendant au trône, qui va essayer d'assassiner Beowulf, mais celui-ci est beaucoup trop badass. Il sort son épée, le trucide en un seul coup, et la voix dit « Bon, bah c'est bon, le nouveau roi a été décidé. » C'était expéditif, c'est bien. On évite cette partie-là de l'intrigue. On a la scène de l'enterrement du coup du précédent roi, où si vous avez déjà vu des œuvres avec des vikings, c'est le classique drakkar enflammé avec une jeune femme qui va accompagner le souverain qui brûle le long de la rivière.
Accompagné, ça veut dire qu'en fait on la brûle vivante. Voilà, on la tue vivante en même temps qu'on fait cramer le roi, quoi.
C'est ça.
Et c'est compliqué de la tuer morte, mais.
Chelou d'ailleurs, hein, la manière de. Il y avait un type qui l'a soulevé qui. Elle disait une phrase. On l'a relâché.
Ah oui.
Et on l'a relâché.
Bah oui, parce que. Attends, c'est galère de porter une personne à bout de bras pendant tout un discours d'un autre côté. Hein, ouais, là, j'entends.
Mais c'était. Ça, c'est drôle.
Très drôle, mais c'est réaliste.
Actuali.
Non.
Ça fait parler. Ça fait partie, en fait, des rites, justement, des Vikings, qu'on appelle plutôt les Normands dans le bouquin. Donc, en fait, le bouquin, c'est en même temps un mélange entre l'histoire de Beowulf, on va voir ça tout au long. Et en même temps, c'est un peu l'histoire, le gars Ahmad, avec le nom hyper long, il a vraiment existé. Et l'histoire, en fait, est à moitié vraie, mais c'est une sorte un peu de Marco Polo, tu vois, qui est parti découvrir la Chine et dont les écrits ensuite ont permis aux Européens de découvrir ce qui se passait en Chine. Bah lui, c'est un peu l'équivalent de ça. Mais simplement, il est beaucoup, beaucoup moins connu et il y a eu beaucoup de traductions qui ont beaucoup écorché le truc. Et donc, Michael Crichton a en même temps utilisé ce récit-là. Il a énormément détourné ce qui était écrit, tout en faisant croire que c'était réaliste, en mettant parfois des notes en bas de page très 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 pratiques. Mais par exemple le fait que tout le récit de ce qui se passe lorsqu'il y a un chef de clan ou un roi viking qui meurt, ça fait partie de la description du bouquin et c'est un vrai truc véridique de l'époque.
Et c'est un personnage qu'on retrouve, désolé pour mes références nulles à chier, dans Assassin's Creed Valhalla, qui effectivement c'est ce personnage là qui se retrouve chez les Norvégiens pour dire coucou, je vais t'apprendre les lames secrètes et toutes les conneries d'assassin. Et
oui, c'est vrai. Mais oui, c'est lui.
Et oui, c'est lui.
Mais oui, oh, incroyable.
C'est voilà. Marrant. Merci, je savais pas du tout que c'était un vrai poète. Mais en plus, il y a tout ce truc où il écrit des choses, donc c'est assez logique que ce soit un vrai poète.
Je crois qu'il était plus diplomate que poète. Si
d'accord.
Je dis.
Bah là, il est ambassadeur. Enfin, il est envoyé comme ambassadeur.
Il est censé être envoyé en
Bulgarie. Gouverneur.
Il est censé être envoyé en Bulgarie, sachant que c'est pas la Bulgarie telle qu'elle existe actuellement, mais du coup c'est un pays vraiment très très au nord. Je crois que c'est plus ou moins en Scandinavie.
Donc Ahmed qui observe, qui comprend rien de ce qui se passe, et voilà, c'est vraiment par traduction interposée. Il y a un des Vikings qui parle grec, qui s'appelle Erger, qui explique au personnage de Omar Sharif, et puis qui traduit, etc., et qui lui explique un peu tout ce qui se passe. Bref, on arrive sur le lendemain, on voit Ahmed qui se réveille, qui se balade sur le camp, qui voit qu'il y a un nouveau navire qui est arrivé, qui est accosté, avec un enfant qui se tient debout sur la proue, et qui ne bouge pas. Et il rentre dans la grande tente, il voit qu'il y a tous les Vikings qu'il a vus la veille qui ont une énorme gueule de bois, qui commencent à se faire passer une sorte de crachoir dans lequel ils boivent, ils recrachent dedans, ils font leurs ablutions avec. Et là on est vraiment dans oh regardez comment ils sont dégueulasses par rapport au personnage principal qui voilà est un homme de culture propre, etc. Et lui il comprend pas trop. Il est même un peu dégoûté par ça. Et il leur parle, il dit, bah voilà, il y a un bateau qui est arrivé avec un gamin qui est en figure de proue, etc. Puis il lui explique, oui, mais il fait ça pour se faire voir, pour être sûr qu'il soit bien réel. Il est en mode, bah bien sûr qu'il est réel, il est devant tout le monde. Il dit, oui, mais comme il a émergé du brouillard, voilà, il y a toute une culture au fait que le brouillard cache des esprits malfaisants et des choses mystérieuses. Donc il nous laisse le temps d'appréhender qu'il est arrivé. Ce gamin, entre autres, est un messager qui vient d'un autre royaume et qui vient solliciter l'aide du coup du roi Beowulf, qui est là afin de combattre un ennemi inconnu, un ennemi qu'on ne doit pas nommer. Voilà, il y a une allure presque mystique autour de cet ennemi-là.
C'est Voldemort.
Oui, bah, il y avait un peu ça. Voilà, c'est vraiment l'ennemi dont on ne doit pas prononcer le nom quand Ahmed demande. Mais c'est quoi cet ennemi, etc. Ils sont en mode, on peut pas le dire en fait, sinon ça va attirer des mauvaises choses sur nous. Il demande à Beowulf d'intervenir, et ce à quoi Beowulf fait rentrer une prophétesse, une oracle, qui va tirer les osselets et qui va annoncer qu'il y aura 13 guerriers qui vont devoir partir combattre cette menace. Donc, une fois qu'elle annonce les 13 guerriers, évidemment le premier c'est Beowulf, t'en as 11 autres assez Osef à part Erger qui vont chacun tour à tour s'annoncer comme membres de cette compagnie. Et au moment d'annoncer le 13e, donc pendant ce temps-là, Ahmed observe avec un regard interrogateur. Ça marche assez bien, tu vois que le mec il comprend rien de ce qui se passe, et d'un coup les regards se tournent vers lui parce qu'il y a l'oracle qui vient apparemment de dire que le 13e guerrier ne doit pas être un viking, ne doit pas être un nordique, et bah comme c'est le seul gars avec son ami un peu âgé qui est présent et que c'est le seul gars un peu jeune, bah tout le monde se tourne vers lui en mode ok, bah ce sera lui le 13e guerrier.
Je crois que pour le détail dans la VF ils disent l'un d'entre vous ne doit pas être un viking, enfin un local. Et le truc, c'est que bah il y a un Écossais dans le tas. Bah c'est bon, vous l'avez déjà celui qui est pas local.
Dans le bouquin, en fait, c'est un peu expliqué. Entre autres, le chiffre 13, il est important pour les Vikings parce que ça correspond aux 13 cycles de la Lune dans l'année. Mmh. Ils se sont rendus compte que le dernier cycle, par contre, ça fonctionnait pas tout à fait. Il est considéré comme étant nécessaire, mais un peu étrange, un peu bizarre, et c'est la raison pour laquelle ils réclament que ce soit un étranger pour le 13e.
Je crois qu'ils le disent dans le film, ils disent les 13 mois de l'année pour eux.
Ah, d'accord.
Du coup, Ahmed est un peu interloqué, n'a pas vraiment le temps de dire quoi que ce soit, il n'a même pas le temps d'émettre une quelconque protestation. Il se retrouve à devoir préparer sa monture avec les autres guerriers, qui vont un peu se moquer d'ailleurs de la taille de son cheval, c'est un truc qui va un peu revenir. Voilà, ils sont en mode, de toute façon, il n'y a qu'un arabe qui ramènerait un chien à la guerre. D'accord, très bien. Il lui demande son nom, du coup, il commence à donner son nom à rallonge.
Ahmed ibn Fardan ibn al...
À tes souhaits.
Al-Abbas, il vient et le dernier, il se fait couper.
Ouais, c'est ça. Il se fait couper et du coup, t'as Erger, donc celui qui parle grec et qui traduit et qui est un peu le seul des guerriers qu'on va vraiment suivre avec Beowulf et Ahmed, qui du coup dit oh, bah, il s'appelle Ibn. Et t'as l'autre qui dit bah non, Ibn ça veut dire fils d'eux. Et puis bon, bah il a pas le temps. Voilà, il s'appellera Imed ou Ibn ou l'arabe durant tout le film de la part de ces Vikings. Et
ah,
ils se mettent en route.
Erger l'appelle petit frère aussi.
Ouais.
Et ça, c'est mignon.
Oui, oui c'est vrai.
Il appelle Little Brother, je suis là genre... Oh.
Et voilà, et ils partent à l'aventure, jusqu'où, on sait pas, mais ils partent.
Et donc on les voit effectivement tous à cheval faire une longue traversée sur plusieurs jours. On se rend compte que c'est plusieurs jours, ce qu'on voit en fait, notamment plusieurs nuitées où tous les Vikings discutent ensemble d'une langue que Ibn ne comprend pas. En fait, petit à petit, on voit que, et cette scène est super bien faite, en regardant juste la bouche des gens, d'un seul coup, un mot que les Vikings disent, parce que vraiment depuis le début du film, en fait nous on ne comprend pas en tant que spectateur ce qu'ils racontent, je sais pas en quelle langue ils parlent d'ailleurs, peut-être c'est du norvégien justement si tous les acteurs le sont, et là d'un seul coup on entend un mot en anglais, deux mots en anglais, puis une phrase, et en fait au fur et à mesure on se rend compte que lui comprend ce qui se dit. Et donc ça, il se rend compte que c'est des blagues graveleuses. À un moment, quelqu'un lui fait une petite vanne, ce à quoi il répond ouais, et ta mère, elle en dit quoi? Ou un équivalent, je ne sais plus ce que c'était la phrase. Oui, je boite.
C'est, je trouve, la meilleure scène de traduction, enfin de compréhension de langage que j'ai vue de ma vie de cinéaste, enfin de cinéphile plutôt. Scène incroyable.
Ouais,
je trouve que c'est
bien.
La plus belle scène du film.
La première fois que je l'ai vue, je n'avais pas compris que c'était sur plusieurs jours.
Oui,
donc j'ai dit, mais mec, t'es reverso en fait. Et puis en fait, j'ai compris que c'était en plusieurs fois. Et je fais, ok, d'accord, c'est cool.
Bah, après, même en plusieurs jours, il devrait pas pouvoir apprendre. Après, tu peux dire, c'est un poète, il est diplomate, il a peut-être justement un rapport aux mots. Mais bon, voilà, tu dis quand même, le gars est chaud, quoi.
Bah, y a, de toute façon, c'est très mis en avant que, voilà, c'est quelqu'un de très,
très
instruit.
Érudit.
Enfin, il a les rapports qu'il veut, hein.
Quoi?
J'ai pas compris.
T'as dit rapport aux mots.
Ah oui, d'accord, ok,
Je coupais le micro, il y a un point.
Donc, effectivement, il apprend... pareil, en fait, j'avais pas compris, c'était en plusieurs jours la première fois que j'ai noté, parce que j'ai écrit, il apprend en une soirée. Genre, non, en fait, non, il n'apprend pas en une soirée. Et en fait, on se rend... assez vite compte que il répond une insulte et les gens commencent à se monter contre lui, et en fait on dit mais attends, mais d'où tu parles notre langue? Et en fait j'ai appris, maintenant je comprends vos mots. Et c'est le moment où ils commencent, et en fait ça les fait rire tous, et la tension redescend et c'est ok. De toute façon, en plus ils se faisaient insulter avant, donc il répond une insulte, c'est ok. Ce moment là vu que donc effectivement c'est un érudit, il y a Beowulf un petit peu plus tard, c'est le lendemain, Beowulf qui lui dit qui lui demande s'il sait écrire les mots, ce à quoi Ibn répond que oui, il sait écrire les mots, et il lui écrit une phrase qui est une phrase, je pense, du Coran sur le prophète Allah, en lui montrant comment est-ce qu'on écrit. Et donc Beowulf en mode d'accord.
C'est Mohamed le prophète, et
c'est Mohamed
Allah,
le prophète.
Oui, c'est ça. Et c'est Dieu qui est Allah qui est le Dieu unique.
C'est ça. C'est en mode Allah est le Dieu unique.
J'ai dit quoi?
Et Mohamed son prophète.
Okay. Pardon.
Et surtout, il dit pas exactement. Il me semble s'il sait écrire des mots, il dit est-ce que tu sais graver les sons?
Oui, et dessiner. Il dit, est-ce que tu sais dessiner les sons? Effectivement.
Et je trouvais le terme sympa, et je me demandais si c'était pas Ahmed qui comprenait mal encore la langue.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'en fait le mec il dit est-ce que tu sais écrire, et en fait lui il comprend dessiner les sons, tu vois, littéralement. Je trouvais qu'il y avait encore un truc sur la langue,
ouais,
et la compréhension,
oui,
du
bah
langage,
pareil,
que je trouvais,
ouais,
assez élégant.
Oui, c'est vrai que la phrase c'est ça, et c'était assez. Donc il lui écrit une phrase dans la terre, parce que Beowulf lui demande de lui montrer, donc il écrit effectivement cette phrase qui est Mohamed et Allah est le Dieu unique et Mohamed est son prophète.
Voilà, je ne sais plus si c'est exactement cette phrase-là, mais ouais, mot à mot, mais c'est, en gros, c'est ça. Ouais.
Un moment, je me suis demandé justement si ça allait créer de la tension, parce que justement, ils n'ont pas la même religion. En fait, pas du tout. Et juste, il regarde la phrase au sol et il dit OK. Et puis, il remonte sur son cheval. Après, pour le coup, il y a une autre phase de tension. En fait, ça, c'est vraiment le moment du choc de culture où, justement, Ibn doit s'intégrer dans le groupe de Vikings. Il le vanne à nouveau sur le fait qu'il a un cheval beaucoup trop petit, parce qu'eux, ils ont des très gros chevaux de guerriers. Et lui-même, d'ailleurs, n'a pas la même carrure que les Vikings. Il est un petit peu plus petit, un petit peu plus frêle. Donc, il le revanne dessus. Et là, il comprend qu'on le vanne sur le fait qu'il n'a pas un cheval, mais un chien. Et c'est à ce moment-là que la doublure d'Antonio Banderas décide de nous montrer à quel point il est doué à cheval. Il y a 2-3 scènes où on voit vraiment que ce n'est pas Antonio Banderas. Mais donc, en soi, le personnage d'Iban fait un parcours au milieu des arbres et d'autres clôtures tombées. Il saute un petit peu partout et montre que, ouais, peut-être que son cheval il est plus petit, mais que lui il est beaucoup plus habile.
Et ce qui est très très drôle, c'est que j'ai vu pas mal d'anecdotes comme quoi Antonio Banderas était vraiment pas doué pour l'équitation. Et les quelques scènes où on le voit monter à cheval, d'ailleurs, si vous regardez, il marche jamais droit son cheval, il est toujours en biais, parce que je pense qu'il a du mal à diriger sa monture. Et c'est assez drôle à voir.
C'est un peu mignon. Ensuite, on les voit continuer leur périple, prendre un bateau et partir en mer, dans une mer qui est particulièrement agitée. Au moment où, donc le lendemain matin ou quelques jours après, en tout cas un matin, la brume, c'est la brume qui dévoile peut-être une terre au loin, on n'en est pas sûr. Pendant que la personne qui est à l'avant du bateau crie Odin en boucle, un autre de leur équipe, un autre guerrier, décide de lancer une flèche dans le ciel, une flèche enflammée qui, elle, n'arrive pas à bon port. La flèche disparaît dans la brume. Ibn se demande, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi on voit des flèches en l'air ? Donc, je lui dis, attends, regarde.
Pourquoi il y a l'autre con qui gueule « Odin ?»
Oui,
Odin,
c'est ça.
Odin.
Vraiment, on me dit, mais que se passe-t-il ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Il lance une deuxième flèche, et à ce moment-là, la flèche permet d'éclairer la terre qui apparaît derrière la brume. C'est une super belle scène, et ils arrivent à accoster. À ce moment-là, donc ils descendent du bateau et Beowulf demande à nouveau à Ibn de dessiner les sons. Non, il lui dit, je vais dessiner les sons, est-ce que tu peux lire ce que j'écris ? Et il réécrit exactement la même phrase que Ibn a écrit quelques jours auparavant, en l'ayant vu justement quelques secondes, quelques jours auparavant. Donc là, ça montre que non, les Vikings ne sont pas que des grosses brutes. En fait, ils sont assez intelligents. Il arrive à réécrire une phrase en l'ayant vu quelques secondes. Donc, suite à cette petite, ce petit interlude, on voit un messager qui arrive et qui demande à tout le monde de se présenter. Donc Beowulf dit qui il est et il les amène à leur village, directement dans la grande hutte avec le roi donc de ce village qui les a appelés pour les aider. Donc j'ai dit que c'était Théoden du roi, c'est vraiment le même roi, un vieux type dans son trône, très très vieux. Et
je suis vieux.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc Théoden dit à Beowulf, merci d'être venu, tu vas devoir nous aider parce qu'on a une menace, on ne comprend pas ce que c'est. Ils arrivent avec la brume et vraiment ça fait des mois qu'ils nous massacrent. Surtout qu'on voit qu'en plus ce village, il n'y a aucune clôture, il n'y a aucun homme qui peut les défendre. Il dit qu'il n'y a aucun homme entre 15 ans, 15 and 15, donc entre 15 et 50. Bon, en anglais ça passe beaucoup plus beau. Et à ce moment-là, on entend un peu du remue-ménage à l'extérieur parce qu'un enfant arrive blessé, on le voit arriver au loin en courant. Le groupe de guerriers décide d'aller voir d'où il vient parce qu'ils savent qu'il y a une ferme un petit peu plus loin dans la forêt. Et ils arrivent dans vraiment c'est une sorte de petite cabane en bois au milieu de la forêt. Toutes les images de cet endroit sont magnifiques. À part l'intérieur où c'est un massacre complet, il y a un homme égorgé accroché au plafond, un corps d'une femme sous un drap avec un bras qui en tombe, Et alors, ok, bah super, intéressant tout ça. Ça a l'air très bonne ambiance, l'endroit, t'arrives directement, massacre, cool, merci. En fait, au moment où il... Oui.
Et surtout, ils sont décapités.
Ouais, on voit pas la, on voit pas la personne.
On voit pas le corps. Ah,
la personne pendue au plafond, on voit qu'elle est décapitée.
Oui, effectivement. Il me semblait que je l'ai dit, mais je l'ai peut-être dit dans ma tête. Donc oui, effectivement, elle est décapitée, elle est accrochée tête en bas. Enfin, donc non, pas de tête en bas, mais...
mais en bas.
Pied en haut.
Mais en bas.
Pied en haut,
voilà. Vraiment comme si elle avait été égorgée. Et ils comprennent que l'enfant a réussi à se faufiler dans un trou et à s'enfuir. Et ils voient au sol des empreintes de pas et ils disent « Ah là là, ces hommes sont partis à pied. » Je sais pas pourquoi des hommes, c'est vraiment une empreinte d'ours. Donc tu sais, c'est bizarre quand même comme ambiance, on voit une ombre à l'arrière qui les écoute avec une tenue un peu étrange. On sait pas trop si c'est une créature ou si c'est un homme, ça va être effectivement la question, va se répondre un petit peu plus tard.
Et puis aussi il y a Ahmed qui trouve au sol une effigie de femme et il lui dit c'est... Alors je sais plus s'il nomme les Vendôles dès ce moment-là, mais il dit c'est leur mère.
Oui.
Voilà. Oui, c'est quelque chose qui va revenir.
C'est une effigie de femme sans jambes, sans bras, sans tête. Enfin, c'est des choses qu'on voit souvent dans des musées archéologiques avec des gros seins.
C'est ce qu'on appelle les Vénus préhistoriques.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait un petit dessin, même on vous le voyait pas.
C'est bien, c'est très visuel. Quand même. et donc, ouais, je crois que c'est là la première personne qu'on voit habillée un peu avec cette peau d'ours et tout. Moi, j'ai dit, bah en fait, ils sont arrivés à la Galacone, c'est des furies, tout va bien, et puis c'est parti, quoi.
Ouais. C'est pour ça Fury.
C'est pour ça Fury.
Donc il y a un des guerriers qui a essayé de les suivre, mais il se rend compte que leur trace disparaît dans les pierres. Donc, ils sont intelligents en plus. Donc ils décident de partir. Ils savent que de toute façon les créatures arrivent avec le brouillard et ils voient au loin dans la forêt des animaux qui s'enfuient hors de la forêt. Donc ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la forêt. Ils se doutent que des créatures les observent, et d'ailleurs on voit un petit peu plus tard un plan où juste des yeux qui apparaissent sous une fourrure et des dents et des... on comprend pas trop ce que c'est, juste les yeux qui sont humains. Donc j'ai fait une petite description: mi-homme, mi-ours et re-mi-homme derrière. Voilà.
C'est l'homme ours porc.
Ouais, j'aurais pu te dire homme ours porc
un petit peu aussi. Et donc, comme ils savent qu'il va y avoir du brouillard, ils décident de veiller pendant la nuit dans la hutte du chef en ayant barricadé, en espérant qu'ils puissent se battre avec.
Antonio, lui, comprend pas trop comment ils peuvent être dans le mood de dormir juste avant un combat, sachant que bah ils vont arriver dans la nuit, quoi, pour se foutre sur la gueule. Mais on lui répond globalement que de toute façon le destin il est déjà écrit, donc autant dormir. Effectivement, logique implacable. Quitte à...
C'est très épicurien.
Ouais, vraiment, ils sont cohérents. Donc pendant la nuit, alors qu'Antonio se réveille en sursaut un peu après un cauchemar, Berger, donc celui qu'il appelle petit frère pendant tout le long, lui fait signe de se calmer car l'attaque arrive. En effet, toute l'équipe est réveillée, prête à en découdre, mais en restant allongée parce que faut pas déconner. Et on voit par les portes et les fenêtres des silhouettes passer par la lumière. Donc on comprend qu'ils sont vraiment juste là.
Mais non, mais ils se font passer, ils font croire qu'ils sont en train de dormir. Ils font exprès de faire des ronflements.
Oui, c'est un leurre.
Oui, ils font exprès. Tu peux te lever et faire des ronflements. En fait, le truc
de... En vrai, vu qu'il y a de la lumière à l'intérieur.
Oui, mais si les font espionner de l'extérieur et qu'ils les voient debout prêts en découdre, ils vont peut-être pas attaquer, tu vois.
Mmh. C'est un piège. Ouais, j'entends, mais vu comment ils sont relevés, tu vois, enfin, je trouvais ça un peu cohérent. Mais ça se discute. Mais est-ce que c'est important? Je ne sais pas.
Non.
Je ne pense pas. Erger a tout juste le temps d'expliquer la strat. On se met en rond dos à dos, comme ça on se protège tous le dos, et on leur tape dessus. Très bien, l'attaque commence. Tout le monde se lève, se met en rond et bon, pas du tout. Ils partent tous dans un coin et t'as Anthony qui reste au milieu en mode et qui galère. Il arrive à peu près à se battre. On comprend que l'épée est beaucoup trop lourde pour lui, mais il arrive quand même à planter un mec. GG à lui, first kill. On voit dans le chahut deux têtes humaines se faire arracher. J'ai mis décapiter, mais vraiment arracher. Et les Wendels, c'est Wendels, c'est ça, les récupérer et se barrer avec. On en voit qu'ils commencent à se barrer avec des têtes. La scène est très graphique. Le moins de 12 ans, non, clairement pas.
Et... C'est leur laboubou.
Oh la vache.
C'est leur quoi?
Ah non,
vous
c'est
non. Pas les laboubous.
Non.
On va pas partir là-dessus.
Je contracte pas.
Mais par contre, là, il y a quand même un truc. Enfin, les Vendôles, ils sont toujours un peu dans la pénombre. On n'arrive pas vraiment pas à distinguer. Un peu des bêtes sauvages, etc. Et puis vraiment, ils ont l'air d'avoir une force assez surhumaine, parce que vraiment la manière dont ils arrachent les têtes, genre vraiment, c'est comme un coup de tournevis, quoi. Il faut tourner le crâne et puis pop, ça. Waouh.
Ouais, ouais, ça sort vite, hein, vraiment.
Ouais, 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 ils sont très très forts.
Et en vrai, juste avant qu'ils commencent à se battre, il y a bah, Iban slash Antonio qui dit mais moi je ne sais pas me battre, et on lui répond genre bah tu vas apprendre. Alors ok, bah, c'est comme ça que ça marche.
Le combat continue un petit peu et assez vite on voit que les Wendels fuient, ne laissant derrière eux aucun corps Wendels, donc à part les deux guerriers qui n'ont plus de tête du coup, de facto. Les Vikings expliquaient à Antonio que en fait ils partent toujours avec les têtes, ils prennent toujours les têtes avec eux, mais que personne ne sait vraiment pourquoi. Antonio, qui a quand même une blessure pendant la bataille, notamment au visage, est en train de se faire désinfecter par une dame qu'on ne connaît pas, qu'on ne nommera pas, je crois. C'est une femme qui revient, mais je crois qu'on lui donne pas de nom. Donc par une jeune femme qui lui explique qu'elle lui met de l'urine de vache bouillie sur le visage. Perso, je suis pas sûr de la technique. Je crois qu'Antonio non plus. Mais comme elle dit que bah, c'est soit ça, soit le lendemain il va être en PLS et à deux doigts de crever, il dit ok. L'eau c'était pas mal aussi, mais ça passera bien.
Surtout, il lui fait c'est dégueu. Elle fait non, mais je l'ai bouilli quand même, faut pas déconner. Genre ok, bon.
Bon bah si c'est bouilli alors.
Oui, on est encore dans le choc des mœurs quoi. Ouais. Qui sont différentes.
Bah, ça revient régulièrement de toute façon. Ouais.
Maintenant soigné, il est donc réquisitionné pour aller aider à la construction des remparts et en prévision d'une attaque des Wendels. Donc ils vont créer une petite muraille, ils vont mettre des pics et tout. Et alors ça tombe bien, on lui envoie tailler des pieux et on lui montre comment faire. Tu prends l'épée, tu fais deux coups dans le bois, ça fait un pic, t'as un pieu. Sauf que lui, l'épée, il n'arrive pas à la manier, donc il galère. Il va trouver un forgeron, il essaie de demander un truc au forgeron, ça passe pas. Donc il lui pique,
La meule.
La meule. Putain, ça fait 3 jours que je cherche le mot. Hein.
Ah ouais.
Je suis énervé. Il lui pique sa meule et il commence à tailler dans son épée. Et il en sort donc d'une grosse épée viking à deux mains, un sabre.
Un cimeter,
merci. Je suis pas bon sur les mots.
Je suis un nerd. Hein.
Oui. Et il sort un cimeter donc à une main qui manie vachement bien. Il lui montre comment il taille un pieu en 2-3 mouvements avec ça. Il jongle un peu avec pour se la péter. Puis finalement, il retourne bosser quand même, faut pas déconner. Et la femme qui le soignait revient lui donner un peu d'eau. Il demande quand même si c'est pas de la pisse de vache à nouveau avant.
Non, c'est ça. Moi, je me demandais si... Non, il demande si c'est de la bière surtout.
Non, en VF, il demande si c'est à nouveau de la pisse de vache.
Non, en VO,
il demande si c'est de l'alcool, ouais.
Ah ouais, non, là, c'est pisse de... Enfin, c'est peut-être moi qui ai mal compris, hein, mais moi, j'ai vraiment...
Mais il me semble qu'à un moment, il parlait d'alcool. Là,
ouais, mais c'est pour moi, c'est plus tard. Peut-être moi qui ai voulu croire que c'était de la pisse de vache parce que je trouvais ça plus drôle, hein. C'est pas impossible, mais...
Mais c'est surtout, c'est pas la meuf, c'est pas Olga, c'est pas... Ouais. La meuf qui le soigne, c'est pas...
Olga.
Si ah c'est oui. Ça, c'est Olga, ouais.
J'ai pas le nom. Putain,
ouais, elle est nommée qu'à un moment.
Ouais, ouais.
Ok, je suis désolé, je l'avais pas du
c'est
tout.
C'est son moment.
Et dans les crédits aussi.
Et dans les crédits. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Et en fait, donc elle lui donne de l'eau. Je me suis dit, oh, putain, il y a un début de romance. Pas du tout. Vraiment pas. Et elle est surtout là pour expliquer que les gens sont un peu stressés parce qu'ils craignent l'arrivée du dragon Luciole, le serpent de feu, sans dire beaucoup plus sur ce que c'est. Et lui de répondre que de toute façon, il croit pas au dragon, donc il s'en branle. Elle lui apprend aussi que le prince, donc le fils du roi Théoden, pardon, mais oui, je suis con. Que le fils du roi Théoden en a un peu après le groupe de Vikings et veut un peu les foutre en l'air. Et donc, qui sans tarder, il va voir Erger pour lui expliquer que, bah vas-y, il y a le fils du roi qui a un truc contre lui. Ouais.
Oui, sachant que, alors je sais plus, c'est il y avait une scène avant où on rencontre le fils du roi autour d'un repas et qui balance à Beowulf, il dit bah dis donc vous avez perdu deux de vos hommes à la première bataille, en fait vous êtes des grosses merdes, et Beowulf qui lui lance une pique, il dit moi j'ai jamais entendu de haut fait d'armes de votre part fils machin là, à part avoir assassiné vos frères pour être visiblement le seul prétendant au trône. Donc déjà l'entente elle est pas très cordiale entre les deux.
Voilà. Et donc, il fait remonter ça à Erger, qui décide de provoquer un combat avec un des hommes du prince pour montrer l'exemple et leur faire un peu fermer leur gueule, la fameuse diplomatie viking. Et comment provoquer un duel à mort dans un village viking? Ben, en fait, c'est assez facile. Il lui balance de la terre, entre guillemets, sans faire exprès, dessus deux fois. Ça suffit pour les chauffer un petit peu, ça part en duel à mort.
Non, en vrai, ce qui est plus drôle, c'est que vraiment, genre, le type fait genre, tu creuses comme un chien, il fait quoi? Tu m'as traité de chien? Mais non, mais regarde, tu creuses comme un animal, maintenant tu me traites comme animal, tu comprends pas ce que je dis, t'es en train de dire que je suis sourd? Alors, c'est incroyable!
Ouais, je savais pas trop comment le retransmettre, mais je trouvais, c'est très drôle. Merci beaucoup, Léa.
Avec plaisir. Non, cette scène, mais j'étais là, genre, waouh, mais comment le gars, en fait, on dirait qu'il est prêt dès qu'il peut pour faire une grosse baston. Genre, il sait exactement quoi dire pour lancer le truc. Quoi.
Il y va, clairement, il y va. Antonio, par contre, s'inquiète pour Erger quand même, parce que son adversaire, il fait 20-30 cm de plus que lui.
Non, il est baraqué.
Ouais. Il est baraque sa race, et il a bien 10 ans, 20 ans de moins, facile. Il est jeune, il est plus grand, il est plus fort. Bref, ça pue pour Erger. Et ça se prouve assez vite. Le combat commence et en deux coups, l'adversaire, donc qui s'appelle Angus, explose le bouclier d'Erger au petit détail qu'au début, ils ont chacun reçu 3 boucliers. À se dire, ils ont 3 vies.
Moi, c'est ce que je me suis dit pendant la confrontation. Je me suis dit, putain, mais c'est comme dans Smash Bros. En fait, ils ont 3 vies et c'est le premier qui a perdu toutes ses vies qui perd.
C'est exactement ça.
Sauf qu'à la fin, ils sont morts.
Et voilà.
Il se laisse se relever et prendre un autre et lui laisse un petit peu de temps pour se remettre. C'est effectivement comme dans Smash Bros. Maintenant que tu le dis, c'est évident.
Mais sauf qu'ils prennent pas des pourcentages et qu'ils veulent pas de plus en plus loin.
C'est ça.
Non, c'est le pourcentage de dégâts du bouclier.
Mais ils ont ce petit moment d'invincibilité, ils ont perdu leur vie, ils reviennent, ce petit moment de se repréparer.
Exactement. Donc il se relève, il en prend un autre qui va pas tenir vraiment beaucoup plus longtemps. Et en vrai, autant dire, Erger y prend tarif, il est fatigué, ça se ressent. Le troisième bouclier dure encore moins longtemps que le deuxième. Tu sens qu'Erger, il est à bout. Quand le bouclier, troisième bouclier est pété, et il tombe à genoux, il se retient à peine sur son épée. Tu te dis, bon, bah, c'est finito pour lui. Il y a le Angus qui regarde le prince. Le prince lui fait un signe, vas-y, finis-le, il est nul. Angus s'approche pour le décapiter, commence à faire le geste, et Erger se relève. Dévie l'épée et décapite sec Angus.
Et là, je me suis demandé, mais attends, du coup, il pouvait le buter direct, il n'était pas obligé de casser les boucliers.
Ouais. Exactement à cette question.
Oui.
Ah oui, c'est vrai. Voilà,
justement, tout le monde se pose cette question.
J'avais oublié.
Et c'est comme ça que se termine ce duel. Mais du coup, Antonio s'interroge. Pourquoi Erger a fait croire pendant tout le combat qu'il galérait?
C'est parce qu'il faut savoir feindre. Il est facile d'apprécier une force apparente. C'est ce qu'il fait depuis le premier instant où il nous a vus. Maintenant, il va devoir juger ce qu'il ne voit pas.
J'ai remis 5 fois le passage, je n'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire.
Si, en fait, il dit maintenant, il pense qu'on est plus faible, enfin, il nous voit comme faible, mais maintenant, ce qu'il va devoir réfléchir, c'est qu'est-ce qu'il ne voit pas. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on a l'air faible physiquement, mais on est plus intelligent, on a plus de stratégie.
Plus d'expérience.
Plus d'expérience.
Plus fort, du coup, parce qu'il a gagné contre le gros loup.
Ouais, ouais, bien.
Et c'est un parallèle aussi avec les Vendol, qui sont des ennemis qu'il ne voit pas, qui ont beaucoup de mystères, etc. Enfin, c'est très lié sur, justement...
Moi, en tout cas, j'ai trouvé que cette logique implacable, je dirais même plus...
C'est idiot, je dois le reconnaître.
Voilà, ça, c'était Wayne Beowulf qui veut... C'est idiot, je dois le reconnaître. Un peu cher payé, mais ça marche.
Oui, et puis, alors c'est là qu'on va toucher un des problèmes du film, c'est que donc l'intrigue avec le prince, voilà, est terminée à partir de ce moment-là. On n'entendra plus jamais parler du prince du film. Du coup, il y a tout un délire de montée de voilà. Moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est le prince qui a recruté les Vendol et qui se font passer pour des créatures pour faire un coup d'état et tout. Enfin, moi, j'étais en train de m'imaginer ça en voyant le truc. En fait, c'est pas du tout exploité.
Dans le livre, c'est à la fin du bouquin, effectivement, il revient et il y a une conclusion sur cet arc-là, mais c'est pas très important.
D'accord.
Mais sinon, en dehors de ça, le film est très très fidèle en fait au bouquin.
D'accord, ok. Parce que du coup, c'est vrai que moi, je me suis dit, mais attendez, du coup, vous venez quand même de zigouiller un mec super fort qui aurait pu vous être très utile pour repousser les attaques ennemies. Et bon, bah voilà. Bah,
le truc, c'est que s'il faisait pas ça, il risquait d'être tué justement par le fils.
Oui.
Avant même le combat contre les Vendol.
En gros, ils ont montré leur aptitude et leur plus-value.
Ouais, ouais.
Okay. Mais effectivement, c'est un peu c'est en mode genre bon bah voilà, et tu... Moi j'ai bien aimé justement montrer que Erger, il est intelligent, il est rusé, et que c'est pas juste genre t'as d'un côté force brute et de l'autre côté le type qui fait genre hop plus rapide, hop décapité.
Et même Beowulf qui a l'air très taciturne souvent parce que vraiment il tire tout le temps, il est très mono-expressif en te regardant un peu de haut en mode grunt, et en fait non, c'est quelqu'un de très intelligent qui fait attention à ce qui l'entoure, qui est pas aveugle au complot et aux trames qui peuvent se dérouler autour de lui, quoi.
Moi je dis que c'est un film de prouveur. L'autre il prouve avec son cheval, lui il prouve en butant le gars, l'autre il a aussi tout à l'heure il a prouvé en jonglant avec son épée à la con. C'est un film de prouveur.
Putain, mais tellement, en fait c'est que des mecs qui veulent surcompenser en permanence. Ah, parce que c'est vraiment un film de mecs. Hein.
Ah, c'est un film de mecs et de concours de taille de quéquette.
Il y a 3 nanas dans le film qui ne sont jamais nommées.
Le test de. Comment il s'appelle?
Bechdel.
Bechdel. Ouais, il passe pas. Hein.
Ah ouais, là il passe pas du tout.
Oh, clairement pas.
Alors, Ahmed apporte à manger au guetteur du groupe qui lui explique que. on entend un bruit de pluie au loin, mais c'est pas de la pluie, c'est en fait c'est le ressac de la mer qui s'abat sur la falaise juste à côté. Voilà. Ça aura, c'est un détail qui aura une importance dans la suite.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà. Au début, il trouve pas son pote là, qui est en train de faire le guet. Il comprend pas pourquoi il y a personne en haut de la tour de guet. Puis ensuite, il entend, je suis là. Et en fait, il est dans un arbre. On comprend en fait que c'est un peu des filous nos Vikings, parce que bah entre le gars là qui vient de buter Angus par fourberie un peu, lui qui se cache pas à l'endroit où on s'attend à le voir. On comprend que vraiment ils sont.
Mais en vrai, c'est une excellente idée.
C'est une excellente idée.
C'est une super idée. Mais voilà, en fait, c'est que des petits moments comme ça qui nous sont exposés pour faire comprendre qu'ils sont bien, qu'ils sont malins, ils sont smart, ces Vikings.
Parce qu'en fait, en gros, Iban devait aller lui apporter à manger ce qu'il faisait du guet depuis un moment, et donc il arrive à la tour de guet qui n'est pas dans la forteresse, qui est beaucoup plus loin, et doit partir en cheval.
Et on parlait de rapport homo tout à l'heure, mais tour de guet.
J'ai essayé de faire une blague, ça n'a pas. Non, elle est très bien, elle est très très bien.
Ça fait 5 minutes que je cherche un moyen de caler ça.
De
merci,
rapport
bravo.
Homo. Rapport c'est homo. Super drôle, rapport homo. T'as fait exprès ou pas?
Mais non, mais tout à l'heure, on avait.
Je sais, mais parce que t'as dit, t'as parlé de rapport, mais H-O-M-O, t'as fait exprès ou pas?
Oui.
Oui, ok.
Mais oui.
J'avais pas compris.
J'ai fait la blague tout à l'heure. Et là, je rebondis sur ma blague de tout à l'heure.
Mais en fait, j'ai pas compris tout à l'heure. Moi, je comprends la blague maintenant. Voilà.
Bienvenue dans la saison 2.
On s'est amélioré. Léa, elle comprend les blagues durant l'épisode.
Oui.
C'est méchant.
Un peu. Désolé, Léa.
Oui. Ah, c'était méchant. Ah, ok.
Bref, donc pendant qu'il parle de ce fameux ressac, ce petit bruit de fond là qui donne l'impression que la pluie arrive, il voit au loin qu'en fait il y a une espèce de colonne de flammes qui commence à se dessiner sur la montagne juste à côté du village. Donc vraiment une espèce de langue de flamme qui a l'air de se déplacer. Donc pour le guetteur, c'est évident, c'est le fameux dragon enflammé dont on nous tease l'existence depuis un petit moment déjà. Et du coup il sonne l'alerte, branle-bas de combat, tout le monde retourne au village, on essaie de barricader comme on peut. Et là on voit qu'au fait cette colonne elle continue de se déverser. Donc tout le monde est là en train d'attendre que ça leur tombe sur la gueule. Il voit qu'il y a une petite fille qui a pas eu le temps de se réfugier dans le village. Donc Ahmed saute par-dessus la barrière pour sauver la petite fille qui est au loin dans la falaise, dans la vallée, pardon, dans la vallée de Dana. Et il s'approche suffisamment du dragon de feu pour voir qu'en fait, c'est pas un dragon de feu. C'est juste des Vendol à cheval qui sont en train de leur ruer dessus avec des torches enflammées. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas le dragon de feu, c'est le dragon blanc aux yeux bleus que tu lances après lui.
Wow. Ah non, mais là, il y a un nouveau niveau de nerd qui vient de se débloquer.
Oh là là.
J'ai une rêve de droite aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu des descentes au flambeau à la neige.
Oui.
Voilà, bah ça ressemble vraiment à ça.
Donc il a l'info, c'est les Vendol qui arrivent avec des torches enflammées et qui vont tout cramer. Et du coup, il embarque la petite fille, il sonne l'alerte, il donne l'info à tout le monde. Ça y est, tout le monde est prêt à essuyer l'attaque. Bref, l'attaque arrive, ils sont là, c'est un peu la merde. Ils arrivent à buter quelques Vendol qui arrivent à s'introduire dans le camp. Certains d'entre eux se font quand même trucider. Beaucoup d'habitations sont brûlées, enflammées. Et après un dernier assaut, les Vendol finissent par annoncer qu'ils s'en vont, qu'ils arrêtent l'attaque.
Il annonce pas, hein, juste.
Pardon, mais si on voit le chef qui a une grosse massue qui fait. Ouais, et il y a un gros coup de trompette et puis ils s'en vont tous.
C'est ça. Et un détail important, durant la bataille, donc, bah, du coup, comme il a son cimetière, il est quand même vachement plus habile pour combattre ses adversaires et il arrive à en buter un et à le démasquer. Et à ce moment-là,
c'est un humain.
Exactement.
C'est un homme. C'est un homme. C'est un. Il le répète 5 fois. C'est pour ça.
J'ai adoré ce passage-là.
Il fait beaucoup de ça. Il répète. Il y a beaucoup de trucs qu'il répète. Le personnage de Ahmed, Antonio Ibn.
En fait, pour moi, il répète tous les trucs qui sont importants pour l'histoire pour être sûr que le spectateur a bien compris.
Non, mais là, il était persuadé que c'était une créature fantastique. Et là, il est là. Putain, c'est un homme. Ça peut. On peut les tuer. C'est des nôtres, mais pas des nôtres.
Je maintiens, c'est des gens dans des tenues d'animaux en fourrure. C'est des putains de furies.
Bah,
En fait, c'est littéralement ça. C'est que si c'est des humains, on peut les éliminer, en fait. Parce que la première bataille, ils trouvent pas les corps, parce que visiblement, ils ont enlevé les cadavres, et du coup, ça rajoute ce côté mystique de c'est des créatures fantastiques. Et là, quand ils se rendent compte que c'est des humains, pareil pour le dragon qui est en fait une descente au flambeau, comme au ski, bah, du coup, voilà, il se répète ça, parce que faut se mettre à la place du perso. Le mec, il vient de Bagdad, il découvre les Vikings en mode, bon, ok, je dois faire une quête, voilà, parce qu'une oracle a dit que je devais partir avec eux. Et là, d'un coup, en fait, les adversaires sont plus si fantastiques. C'est des humains, très primitifs, mais des humains quand même. Et du coup, ça démystifie la chose. Et lui, ça y est, il se rend compte qu'en fait, c'est pas si mystique que ça, tout ce qui se passe autour de lui.
Après, la blessure à la tête, il a enlevé son chapeau.
Son turban.
Son turban, ouais. Oui, on pourrait dire un turban. C'est le meilleur moyen de comprendre ce que c'est. Et pour l'instant, il l'a pas remis. Et donc, dans le combat, il a rien sur la tête non plus. Mais pour moi, ça a une importance pour plus tard, mais j'ai oublié de le dire, je vais me rappeler.
Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça, c'est à partir du moment où il enlève son chapeau que Galien trouvait qu'Antonio Banderas avait une ressemblance frappante.
Non, même avec son turban, en fait. Moi, je connais pas l'acteur Antonio Banderas. C'est pas un visage auquel je suis familier, et du coup, j'y ai rattaché deux autres visages que j'ai vus plus récemment.
Manuel Valls.
Non.
J'avoue.
Putain, oui.
Non,
hein?
Non,
un peu.
Alors, un croisement entre.
Il est espagnol.
Un croisement entre Alain Chabat et
what?
Vincent Lacoste.
What?
Ah bon, mais absolument pas, Vincent Lacoste.
Merci, merci.
Je lui ai dit un petit air, c'est tout. C'est...
De loin dans le brouillard quand tu fermes les yeux, mais
oui, voilà.
Tu l'as regardé comment le film Galien, de loin dans le brouillard, ferme-moi les yeux.
Bon, après cette attaque un peu vénère, donc on constate les dégâts. Ouais, effectivement, tout a cramé, c'est un peu terrible. Il y a eu pas mal de morts. Du coup, Ahmed se pose. Il y a comment il s'appelle ? C'est pas Beowulf.
Non, Erger.
Erger, voilà. Non, Erger, du coup, se pose avec lui, celui qu'il appelle mon petit frère. Et il lui donne de l'alcool à boire. Et vas-y, bois un coup, c'est bon. On s'est bien défendu quand même. Et là, il lui dit mais non, je peux pas. Ma religion l'interdit. Moi, je peux pas boire ce qui est issu de la fermentation du blé ou du raisin. Du coup, ce à quoi il rigole bien fort, parce que bah en fait, c'est de l'hydromel. L'hydromel, c'est à base de miel. Il va pouvoir se pinter la gueule.
Alors, pour avoir déjà bu de l'hydromel, tu bois pas l'hydromel comme ça à grande gorgée, hein, si t'as jamais bu d'alcool. Parce que tu finis dans un état après.
C'est si fort que ça, il me semblait que c'était assez léger.
Bon, c'est 12 degrés.
Non, c'est 12. Ça...
Pas 12 degrés.
Alors c'est pas 12 degrés.
C'est 12 comme degrés. Du pinard, non ?
Non, c'est plus 18-20.
Ah oui, quand
mais,
même.
Mais
ah.
en vrai, ça a un goût. Fin, la première fois, ça agresse un peu la gorge.
C'est comme une liqueur.
Et quand tu bois, ça dépend lesquels. Mais ouais. Parfois, c'est très épicé.
À l'époque, ça va.
À l'époque, c'était très épicé. Et du coup, ceux qui sont plus médiévaux que ce que t'achètes, voilà, quand tu vas dans des trucs festivals médiévaux comme le Nord que je suis, c'est assez épicé et parfois ça agresse un peu la gorge.
Okay.
Donc en vrai, oui, ça se voit, c'est pas si fort. Par contre, en première fois que tu bois de l'alcool de ta vie, le matin,
façon,
tu vas le sentir.
On le voit, hein, il grimace un peu en buvant sa gorgée. Hein. Et du coup, ce sur quoi Olga arrive donc, et qui dit on va tous mourir de toute façon. Genre les yeux dans le vide. Et puis du coup, elle prend le verre, elle boit un coup. Et puis après, elle lui prend la main. Et puis... ça coupe sur eux qui ont bien dormi un peu tout nus.
Oh, non, ils sont pas tout nus. Ils sont habillés, complètement habillés. Justement, le mec, il lui pousse la botte en mode genre, eh, viens, tu vois qu'il a encore sa côte de maille et ses chaussures.
Ah, ils ont juste dormi ensemble, ils ont pas fait du sexe.
On ne sait pas. Hein.
Je pensais que c'était du gros sexe sale.
Merci Galien.
En tout cas, ils dorment habillés.
Bah, d'ailleurs, moi, je sais que toi, tu trouvais qu'il n'y avait pas de hint de romance. Enfin, pour le coup, il y a quand même pas mal de regards entre les deux. Et en vrai, sans qu'on soit dans la romance classique, j'ai trouvé ça assez un peu comme... c'est la fin du monde un peu, ce côté de bon bah on va chercher de l'affection là où on peut en trouver parce qu'on est dans une situation désespérée.
Je développerai ça après, mais c'est par rapport à la fin que je dis ça.
Perso, okay. Moi je trouve que ça sort un peu de nulle part aussi, hein. C'est plus en mode
non mais c'est une fille, faut que ce soit un intérêt sexuel,
voilà. Ah ouais, non mais j'ai l'impression qu'elle le propose un peu en mode bah on va crever, vas-y viens on baise,
ouais,
avant
non, mais
crever,
en vrai,
quoi, parce
oui.
Que, bah,
mais je veux
bah,
dire c'est juste
là,
que la fille elle l'a soignée parce que voilà, parce que c'est une fille, elle s'assoigne et après elle accouche avec lui parce que c'est une fille et que ça couche, voilà.
J'adore le fait
c'était le moment féministe.
Pour le coup, je peux faire un parallèle avec le bouquin. Dans le bouquin, en fait, on découvre qu'ils ont des esclaves, on n'en parle absolument pas dans le film, et les Normands, autrement dit les Vikings, passent leur temps à coucher avec les esclaves qui n'ont pas leur mot à dire et qui sont décrites comme étant tout le temps contentes de coucher avec les Normands, même s'ils n'ont pas vraiment le choix. Et donc, pour la première fois, Ahmad décide de coucher avec une esclave sans lui demander son autorisation, juste parce qu'il a été excité par le combat. Donc, il n'y a pas du tout de petite romance comme ça dans le livre.
Bah, super, moi je préfère ça quand même. C'est pas très féministe, mais au moins ça enlève.
Oui, c'est clair. Ils ont adouci le truc, ouais.
Mais c'est une esclave, la meuf. Moi, j'étais.
Non.
Oui, bah non, ça peut pas être une esclave dans le film, vu que j'en.
C'est pas expliqué. Ouais. Et en fait, il y a en même temps des femmes qui sont des femmes mariées, mais comme l'adultère est autorisé, ou en gros, là, en tout cas largement non combattue, et ça passe très bien, en fait, si une femme a envie, alors qu'elle est mariée, de coucher ailleurs, il n'y a pas de souci, et on considérera que de toute façon, le gamin qui naît, c'est le fils du père.
Okay.
Même si le père, tu vois, par exemple, comme c'est des guerriers, il part pendant des mois en mer, si jamais elle a un fils avec quelqu'un d'autre pendant l'absence du mari, quand le mari revient, il considère que c'est son fils, même s'il a été absent depuis 2 ans. Quoi.
Et ça, c'est genre historiquement.
Alors, dans le bouquin, oui. Après, je suis pas allé fouiller vraiment en détail.
Ok, bah, ça m'intéresse, moi je regarderai ça.
J'adore le fait que t'aies parlé de sex interest et pas de love interest. Parce que littéralement, c'est ça, quoi.
C'est vrai. Bah ouais, un peu pour le coup. Mais bon. Bref, pardon, gagne.
Et donc ensuite, on est le lendemain matin, il y a un des guerriers qui vient réveiller Antonio et Olga, mais c'est uniquement Antonio qui l'intéresse, pour faire une petite réunion post-bataille entre guerriers au lendemain de la bataille. On ramène le corps d'un Wendal qui est mort pendant la bataille, donc c'est le moment où ils vont pouvoir vraiment complètement enlever sa coiffe et étudier son corps. Et là, effectivement, ils se rendent compte que c'est un humain classique, même s'il est éventuellement un peu plus noir de peau et il a des tatouages et du maquillage sur le corps, mais sinon c'est un humain classique sous sa coiffe d'ours. Et donc, sur ces entrefaits, ils disent comme c'est des humains, ça veut dire qu'ils doivent dormir, et s'ils dorment, ça veut dire qu'on peut éventuellement essayer de les attaquer pendant leur sommeil. Et là, il y a une femme qui vient et qui dit « Ah, je pense que je connais une femme qui pourra vous aider. »
C'est pas n'importe qui, c'est la reine.
Ouais.
D'accord. Je n'avais pas compris que c'était la reine.
Si, c'est la reine ou la princesse.
En fait, il le reprécise juste après, parce que la femme en question va dire « Ah, une reine devant moi. C'est comment une reine ose se montrer devant moi, un truc comme ça ?»
D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle GPS dans le film.
Moi, j'aurais pu te dire la maîtresse des cartes, mais...
Et donc, du coup, suite aux indications de la reine, ils montent tous à cheval et ils se déplacent pour aller dans un village de nains, c'est-à-dire que tous les acteurs, ce sont des personnes de petite taille. Et leur objectif, c'est d'aller voir une très vieille femme, qui était déjà très vieille quand la reine était petite fille, qui va être, du coup, leur conseillère. Donc, Beowulf va se présenter à elle, la vieille dame lui dit « Pour t'aider, est-ce que tu possèdes... un objet qui appartiendrait au Wendel pour que je puisse te guider ?» Et à ce moment-là, on tend à la vieille dame une des statuettes qui est une Vénus préhistorique. À partir de là, elle dit « Ah, mais oui, je reconnais, c'est une statue, c'est une sculpture de femme enceinte, ça correspond à la mère des Wendels, c'est très important pour eux, si vous la tuez, ça va détruire tous les Wendels, et vous la trouverez dans la terre. » Elle n'est pas plus précise que ça.
C'est des petites personnes, il me semblait que c'était des gens atteints du syndrome de Down. Plutôt, ils avaient des... Non ?
J'ai même pas fait...
Alors, dans le bouquin, c'est des nains.
Dans le bouquin, c'est des nains, parce que dans le film, ouais, c'est des... je crois qu'en français, on dit syndrome de Down, on dit plus trisomie, il me semble. Bon, voilà. Et elle dit aussi qu'il faut qu'il tue le chef. Il y a la mère, et elle dit qu'il faut aussi qu'il tue le chef qui a des défenses, qui a une peau d'ours, enfin, qui est habillé comme un ours et qui a des défenses, etc. Donc, ils ont deux cibles à abattre.
Elle dit pas juste qu'il a des cornes ?
Oui, si, il a des cornes. Ouais. Enfin, voilà, c'est un truc dans ce genre-là.
Il a les cornes du pouvoir. C'est ce qu'elle dit.
Ouais.
Et après, c'est ça, parce qu'elle dit des choses un peu
Donc, à partir de ça, ils reviennent au village et ils décident tout simplement de partir à la recherche des Wanders. C'est-à-dire que jusqu'ici, ils étaient vraiment restés à fortifier leur village et à attendre des attaques. Là, ils décident vraiment d'aller sur leur territoire pour les poursuivre.
Parce que justement, en fait, ils se sont rendus compte que si c'est des humains, ils ont une planque parce qu'ils doivent dormir. Donc, on peut aller les tuer. Parce qu'avant, on ne sait pas d'où ils sortent, vu qu'ils arrivent dans le brouillard à chaque fois.
Exactement. Donc, ils suivent leurs traces. Leurs traces sont d'autant plus faciles à trouver que, comme les Wanders se pensent complètement invincibles, ils n'ont pas essayé de se camoufler ni quoi que ce soit. Donc, ils arrivent assez facilement à suivre les traces. Et ensuite, ils commencent à réfléchir. Ah, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent des coiffes d'ours? C'est parce que soit ils se prennent pour des ours, soit ils veulent qu'on les prenne pour des ours pour faire peur. Et donc, ils commencent à se poser des questions. Comment est-ce qu'on fait pour attaquer des ours? Comment est-ce qu'on fait pour les éliminer? Bah, les ours, ils vivent dans des cavernes sous terre. Ah, bah, justement, je connais une caverne qui est pas loin. Et c'est comme ça, en réalité, qu'ils vont trouver. Et ça correspond également à l'espèce de prophétie où tout cas ce qu'a dit la vieille dame, à savoir vous les trouverez dans la terre. Donc ils continuent à rechercher et ils finissent par trouver le camp des Wendels. Ils arrivent en hauteur et ils voient en même temps une énorme chute d'eau, un pont, et au bout du pont, en réalité, ça rentre dans une cavité de la montagne, et donc là on comprend que c'est l'entrée de la caverne. Donc discrètement, ils descendent pour arriver au bout du pont. Au bout du pont, ils tombent sur un Wendolf qui sort d'une hutte, et là il l'assomme et il l'achève d'un coup sur la tête. À partir de là, il y a un des guerriers qui va prendre la coiffe d'un des Wendels. Il va traverser le pont tranquillement parce qu'au bout du pont il y a des sentinelles, et au bout du pont il va sortir son poignard. Les sentinelles, comme il est camouflé, costumé en Wendels, ne l'ont pas reconnu, et ils vont pouvoir en même temps les poignarder et en même temps les tuer à l'arc. Et grâce à ça, bah, les guerriers vont pouvoir enfin rentrer dans la caverne, et ils vont pouvoir donc rentrer dans la caverne des Wendels. Donc ils s'enfoncent à l'intérieur de la caverne avec des torches. Ils enlèvent leurs armures pour faire moins de bruit et pour pouvoir plus facilement se faufiler dans les boyaux qui sont étroits. Ils passent à côté d'un premier groupe de Wendels qui sont endormis en rampant par terre à côté d'eux. Ils vont continuer à s'enfoncer comme ça de plus en plus profond à l'intérieur de la caverne. Ils vont tomber sur des gigantesques piles de crânes humains qui sont empilés comme dans une sorte de mausolée.
Un peu comme Obélix qui empile ses casques de Romain, tu vois.
C'est exactement ça. Sauf qu'on comprend en fait que les...
Mais Wendels un peu plus macabre.
Voilà, c'est ça. Oui. Et on comprend aussi qu'en fait, ils mangent les cervelles de leurs victimes. C'est la raison pour laquelle, pour eux, c'est très important à chaque fois d'embarquer les têtes. C'est qu'ils embarquent les têtes en même temps pour conserver les crânes, mais aussi pour bouffer les cervelles.
Et juste au-dessus sculpture de crâne, il y a aussi, je peux t'aller le dire, une immense statue, bah, la statue de leur... DS mère, et donc j'ai vraiment juste écrit sur mon carnet boobs. Voilà.
Si vous avez jamais vu en fait les Vénus préhistoriques, effectivement c'est une femme enceinte qui est très opulente avec des seins qui sont énormes et un gros ventre, et généralement il y a pas de tête, il y a pas de bras, il y a pas de jambes, c'est vraiment uniquement vraiment basé sur les attributs féminins particulièrement opulents, quoi.
Boobs.
Donc en fait ils arrivent de nouveau en continuant à s'enfoncer à l'intérieur de la caverne dans une espèce d'énorme salle où il y a une cascade qui tombe au milieu, et il y a un petit chemin tortueux qui permet de s'enfoncer plus profondément. Le problème c'est qu'il y a plein de Wendels qui sont à moitié endormis, donc le chemin est trop dangereux pour pouvoir passer par là, et donc c'est la raison pour laquelle ils vont décider de passer par la cascade pour pouvoir descendre. Donc là il va y avoir une scène où ils vont réussir à envoyer une corde pour pouvoir se balancer d'un côté à l'autre de la chute d'eau. Ils vont réussir à passer, simplement Ahmad va avoir des difficultés, il est rattrapé au dernier moment, donc c'est un peu compliqué, mais ils réussissent enfin tous à descendre tout au fond de la caverne, et là ils sont prêts. Il y a des Wendels qui sont autour d'un feu en train de prier, ils sortent de l'eau et ils décident de tous les attaquer, et ça fonctionne bien, mais simplement forcément comme ils passent à l'attaque, ça alerte les différents Wendels qui commencent tous à se précipiter vers eux, et à ce moment-là ils crient à Beowulf, vas-y, atteins, occupe-toi de la mission, va tuer leur mère pour pouvoir tous les buter. Le but c'est pas ils doivent être une dizaine, puisqu'il y en a plein qui sont morts depuis le début, on va pas pouvoir tous les buter à 10, faut vraiment tuer leur mère, c'est ça le plus important. Donc Beowulf rentre tout droit dans une espèce de boyau qui est encore plus étroit pendant que les autres sont en train de se battre à l'extérieur. Il va passer dans des décors macabres avec des têtes tranchées un peu partout, et il va tomber en même temps sur le chef avec des cornes qui est là, et avec la mère, la Schtroumpfette du coup, puisque c'est la seule meuf du village qu'on voit.
C'est pas le chef, hein, c'est juste un...
C'est juste un assistant. Hein.
C'est un assistant, toi ?
Ouais. C'est juste un assistant, justement, le chef c'est bien après.
Le chef c'est après, ouais.
Ah ouais, d'accord, j'avais pas compris. Et donc, sans difficulté, il va tuer l'assistant, et ensuite, on va découvrir à quoi ressemble la mère. Alors, elle ressemble absolument pas aux sculptures. Dans le bouquin, c'est une très vieille dame. Et là, en fait, c'est juste une jeune meuf qui est entourée de serpents. Elle a un serpent corail autour du cou et elle a une grande griffe. Et en voyant Beowulf arriver, elle va plonger sa griffe dans un récipient rempli de sang. Et on comprend que du coup, en réalité, c'est du poison et que pour se défendre, elle a une griffe qui est empoisonnée.
Et du coup, anecdote par rapport à la comédienne qu'ils ont choisi du coup pour jouer la mère des Wendels. Et à la base, donc ça c'est une des différences avec la version de McTiernan. À la base, McTiernan il voulait justement quelque chose de beaucoup plus proche du bouquin, une vieille dame ou du moins quelqu'un qui a vraiment le rôle de mère porteuse concrètement pour la tribu des Wendels. Et c'est Crichton a priori qui aurait insisté pour avoir quelqu'un de physiquement beaucoup plus attrayant et beaucoup plus normie, on va dire, physiquement, enfin voilà, ce qui est surprenant vu que c'est lui qui a écrit le bouquin à la base et finalement il a préféré pour le cinéma se dissocier de ce qu'il avait écrit à l'origine.
Okay. Et petit point, ce que je me suis fait chier, donc je vais aller regarder le serpent, vu que voilà, je suis allé voir quelle espèce c'était par curiosité.
Alors pour préciser, tu as combien de serpents chez toi?
J'en ai 4.
D'accord, voilà.
Et donc, de ce que j'ai trouvé, c'est une élaphée Porphyracéceus pulcra. En fait, c'est juste une couleuvre. Et en fait, pendant un moment, je me suis dit, mais attends, c'est pas du venin qu'il y a dans le machin. Donc non, c'est bien du poison, parce que les couleuvres, c'est constricteur, ça a pas de poison.
Alors, je pense qu'ils ont pris un serpent qui n'a pas de poison pour tourner avec une actrice, et oui, que théoriquement, dans l'idée, ils se disent que c'est le poison du serpent.
Tout à fait. Par contre, l'autre détail, c'est le film, il se passe où?
Le film, du coup, il se passe a priori, je vais supposer, au Danemark, en Norvège.
Voilà, il y a pas de serpent là-bas. Mmh. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a trouvé, parce que clairement, c'est pas des navigateurs, ils sont pas si évolués.
Bah ça, en fait, on va en parler à la fin de à quel point c'est fantastique ou pas. Mais
ouais, voilà.
Donc Beowulf commence à se battre avec la mer. Le combat est assez rapide. En réalité, il se fait piquer par la griffe et juste derrière. Il la décapite avec un coup d'épée, donc c'est assez rapide. Il sort ensuite du boyau, il dit aux autres que tout va bien, on a réussi à tuer la mère, on va pouvoir partir.
Il titube un peu, hein.
Ouais, il titube un peu parce qu'il a été piqué, et donc au fur et à mesure, en fait, on va voir que le poison va agir de plus en plus sur lui. Les autres sont en train de se battre, ça fait, c'est la 50e bataille depuis le début, donc ça fait pim pam boum, il y a des coups d'épée, des têtes qui roulent.
Et ça fait beau.
Oui, je sais, c'était la référence. ils vont de plus en plus profondément dans la caverne et ils se rendent compte qu'il y a un bruit d'eau et qu'il y a de plus en plus d'eau autour d'eux. Et c'est là qu'ils reconnaissent que c'est le bruit de l'eau du ressac et donc qu'ils ne sont pas du tout loin de la falaise. Donc, ils décident de plonger au fond de l'eau pour pouvoir trouver une sortie. C'est ce qu'ils font. Ils vont tous plonger dans l'eau. Il y en a un qui reste en plus en se battant contre Evendol, mais bon, ça fait juste un guerrier de moins. Et donc, on les voit qui nagent et qui réussissent enfin à remonter à la surface. Et ils sont dans la mer, proche des côtes, et on les voit qui se dirigent du coup en direction du village.
Ah, et un truc déjà, moi, cette scène, c'est le genre de scène qui m'angoisse de fou, mais ça c'est personnellement parce que ils vont donc aller sous l'eau. Dans des sortes de tunnels qu'ils ne connaissent pas, donc clairement tu te dis c'est la scène de la noyade. En plus j'ai un peu un réflexe nul de quand il y a une scène qui se passe toujours dans les films.
Tu retiens ta respiration.
Oui, j'ai failli mourir pendant Nemo. Mais donc là pour le coup j'étais genre vraiment stressée et puis il y a quelqu'un qui dit s'il n'essaye pas de nous suivre c'est que on va mourir noyé. En vrai, genre si eux-mêmes savent qu'on peut pas sortir par là, c'est que non, on va mourir.
Et du coup, l'anecdote que je citais dans les déboires de tournage, c'est durant le tournage de cette séquence sous-marine, donc qui a été fait en studio, où l'acteur donc qui joue Erger, en fait, a failli se noyer parce qu'il s'est retrouvé bloqué en fait dans un panneau de décor sous l'eau. Mmh. Et en fait, c'est Antonio Banderas qui l'a de justesse sorti de la flotte avant que le mec soit inconscient et commence à faire une sérieuse noyade. Mmh. Voilà.
Aïe.
Les guerriers, je pense qu'il y en a au moins 4 ou 5 hein, qui sont morts depuis le début, parce qu'il y en a un dans la première bataille, il y en a 2-3 dans la deuxième.
En tout, il en reste plus que 4.
Ouais, c'est ça, ils sont plus très très nombreux. Et ils retournent tous, une fois sortis de la caverne, jusqu'à la forteresse de Hrothgar. Ils y sont accueillis en héros, mais assez rapidement, en fait, on se concentre sur Beowulf, qui est gravement affaibli, et tout le monde qui dit, bah oui, il va mourir, parce que le poison est incurable. Voilà, Beowulf qui s'inquiète un peu de...
Le poison est incurable.
Oh.
Joli, très très beau. Et du coup, voilà, Beowulf qui s'inquiète un petit peu de la manière dont on va disposer de son corps après sa mort, parce que du coup, il va pas mourir sur le champ de bataille et il va mourir un peu comme une merde, hein, concrètement. Voilà, et ses compagnons et le roi qui le rassure en mode non, on va t'enterrer comme un roi, parce que bon, tu nous as sauvés. Sauf qu'en fait, les guerriers ne sont pas dupes. Ils savent très bien que les Wendels vont venir pour se venger parce qu'ils ont tué la mère, mais ils ont pas tué le chef. Erger et Ahmed discutent de bon, on va essayer de profiter du calme tant qu'on l'a, sauf qu'en fait, ils n'ont pas le temps de profiter du calme. Ils entendent très rapidement la fameuse trompette des Wendel, et là, on les voit au loin des centaines, voire presque des milliers, enfin, ils sont ultra nombreux à se rassembler devant la colline, et là, tous les guerriers sont à se regarder en mode. Là, c'est fini. On va pas pouvoir les vaincre. C'est notre champ du cygne. Ça va être notre dernière bataille. La pluie commence à tomber. Les Wendel chargent. En fait, c'est pas tous les Wendel qui chargent. Il y en a qui restent juste au loin à regarder. Visiblement, je pense les non-combattants. Et avant que les Wendel n'atteignent la forteresse, il y a Beowulf qui sort du palais avec son chien. Il traîne la patte. Il a son épée qui touche le sol. Bah, il est vraiment très affaibli. Il est en train de crever. Mais voilà, il va se battre une dernière fois contre ses ennemis. Ça redonne un semblant de courage au reste de la troupe et au reste des villageois, et la bataille va commencer. Et en gros, la bataille par rapport aux autres batailles du film, elle est très peu comment dire, elle est pas nerveuse en fait, elle est tout au ralenti, le son est quasiment complètement étouffé pour donner un peu cet aspect, je pense, de c'est la fin et tout le monde va mourir. Et j'ai vraiment cru que le film allait se terminer comme ça, avec la mort de tous les personnages. Mmh. Juste à ce moment là il y a Ahmed qui, pour la première fois du film, fait une prière à là sous le regard de Erger, voilà, un regard de respect mutuel, parce que là ils ont traversé pas mal de choses ensemble, et qui du coup le voit. Et au moment où la bataille commence, ils récitent la fameuse phrase, il me semble que la nana, au moment de l'enterrement au tout début, récitait
Beowulf.
Bah, Beowulf, mais tous les guerriers, même Ahmed, oui, d'ailleurs, oui, la récite Et du coup, la bataille démarre, sont étouffés, etc. Et là, on se concentre sur Beowulf, en fait, qui va tourner les yeux dans le tumulte et qui va repérer le chef des Wendel, parce que voilà, il a une peau d'ours comme les autres, mais lui, il a des cornes et tout qui sont attachées dessus. Il a un maquillage jaune, un peu, voilà, il se démarque physiquement. Et le chef va charger Beowulf. Beowulf, d'un seul coup d'épée, va réussir à le désarçonner. Il va prendre quand même quelques coups d'autres soldats Wendel, et il va assez rapidement réussir à l'éliminer. Et en fait, au moment où le chef des Wendel meurt, comme l'avait annoncé la vieille avec les nains là, les Wendel partent en déroute, s'enfuient tous, quittent le village, s'enfuient à nouveau, alors que concrètement ils avaient presque gagné, parce qu'il restait plus grand monde dans le village. Mais voilà, c'était le coup fatal, la mère est morte, le chef est mort, les héros ont gagné. Les personnages voient les Wendel en train de s'enfuir, on distingue Beowulf qui, fatigué, s'assoit, et au moment où le calme retombe complètement, les guerriers se tournent vers Beowulf, et là on le voit assis avec une posture extrêmement royale, mort, mais qui regarde au loin ses ennemis en train de s'enfuir. J'ai trouvé l'image assez belle en vrai. Mmh. C'est très cliché badass, mais en vrai ça marche quand même vachement bien.
En plus, il est assis sur vraiment ce qui ressemble à un trône.
Ouais.
Le plan est très très beau.
Et concrètement, là on approche du dénouement du film, parce que on a brièvement l'enterrement du coup de Beowulf, qui a, comme le roi du début, un enterrement, enfin une procession royale pour célébrer son court règne, mais mine de rien c'est un héros. Et ensuite on retrouve Ahmed de nouveau sur un drakkar sur l'eau, qui dit au revoir à Erger, parce qu'il va retourner à Bagdad. Voilà, il se balance quelques pics, encore un peu les blagues qui se balançaient un peu pendant tout le film. Voilà, merci l'arabe, merci le viking, etc. Erger qui lui dit on n'a pas qu'un seul dieu comme toi, mais je vais tous les prier pour être sûr que tu arrives à bon port, etc. Voilà, il y a un vrai respect mutuel entre les deux personnages. Et Ahmed va retourner à Bagdad et va écrire donc le récit qu'il raconte depuis le début, qui retrace l'épopée des 13 guerriers et de Beowulf, en espérant que Allah protège ces païens qui vénèrent d'autres dieux. Et ça se termine là-dessus.
Et tu l'as pas précisé, mais quand il prend le bateau et commence à repartir, il remet sa coiffe.
Oui, tout à fait.
Et en fait, c'est pour ça que je trouvais, j'ai reprécisé tout à l'heure, c'est que je trouvais la symbolique un peu très beau de ça qui était terminé, sa mission est finie, il rentre chez lui, il reprend ses habitudes.
C'est ça.
C'est plus le 13e guerrier. Il redevient gouverneur.
C'est ça, c'est qu'en fait, en découvrant la culture viking, il perd un peu son identité d'arabe pour s'intégrer un petit peu. Bon, il la garde quand même, mais voilà, pour s'intégrer dans cet univers dans lequel il est plongé. En plus, il est vraiment tout seul. Et voilà, il retrouve son identité de poète arabe avant de partir chez lui. Même s'il a été banni, donc j'espère que ça va le faire. Hein,
chez vous.
Et donc voilà les gens, c'était le 13e guerrier. Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider de si on sauve le film ou non. Mais avant ça, une petite discussion libre. Alors, le 13e guerrier, vous en pensez quoi? Tiens, dis-nous, Galien, qu'est-ce que tu penses du film?
Bah, en fait, moi, c'est ce que j'expliquais. C'est les films, en gros, qui racontent des batailles, des trucs comme ça. En gros, souvent, c'est des films qui me parlent pas du tout. Je trouve ça chiant, les batailles, c'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, et celui-là, il y avait un peu... Il y avait autre chose. Il y avait vraiment le côté choc des cultures. Comment tu fais pour t'intégrer dans un truc qui te ressemble pas du tout. Et puis ce côté un peu... aventure, enfin ouais, ce côté un peu fantastique, t'as presque l'impression de regarder un récit d'histoire. Ça pourrait presque être un meilleur film de Donjons et Dragons que Donjons et Dragons, d'une certaine manière. Maintenant, ce qui m'a moins plu. Bon bah déjà tous les écueils scénaristiques, genre la caravane qui disparaît, des trucs un peu bizarres du genre tiens toi tu vas venir avec nous et genre ok le mec il remarque, c'est un peu logique pour un gars qui se fait bannir de son pays de se dire bah de toute façon j'ai rien à perdre, je vais
il lui laisse pas le choix en fait dans le bouquin, okay. C'est un peu mieux expliqué,
parce que dans le film il a l'air d'avoir carrément le choix et c'est trop chelou tu vois qu'il dit, je vais tout abandonner,
il
vous
veut
suivre.
Plus ou moins s'enfuir et en fait il menace de le tuer, donc en fait d'accord. Il lui laisse le choix, c'est soit on te tue maintenant soit tu nous suis,
ok. Ah oui, donc pas trop les mêmes rapports. Ouais. Et aussi le truc qui m'a vraiment, enfin qui est vraiment très très problématique dans ce film, c'est sombre.
Oui, putain oui.
Et je parle pas de l'histoire, je parle de l'image. Mmh. L'image est extrêmement sombre. Alors des fois ça rend super bien. Genre par exemple, le truc la scène de la traduction. Ça c'est génial parce que il a son turban là qui fait qu'il y a presque que son visage qui apparaît, en plus son turban est noir donc vraiment il y a vraiment que son visage qui ressort à moitié dans l'ombre. Mais alors par contre dans la scène de bataille que j'ai racontée, désolé mais souvent t'entends des bruits de bataille et puis c'est tout noir.
Pareil, j'ai trouvé, enfin ouais, il y a vraiment beaucoup trop de plans où tu ne vois rien. Genre je me suis retrouvé à mater le film dans le noir le plus total, je voyais quand même rien. Et tu vois la première bataille quand ils sont dans la maison du roi où tu dis bon il fait noir, tu vois pas grand chose, c'est pour l'effet de style et tout, ok. Bah dans la bataille suivante quand tu vois toujours rien, je suis en mode bah non là les mecs juste c'est dommage quoi, c'est un film d'action, c'est un peu héroïque tout ça, on voit pas les combats, c'est chaud quoi.
Bah et c'est surtout qu'en plus la deuxième bataille, donc qui est vraiment la bataille au cœur du film, on est pile au milieu du film, c'est la grosse bataille, elle dure assez longtemps, elle dure 10 minutes je crois, sur un film d'une heure 40 c'est quand même extrêmement long. Et bah au-delà de la lumière où tu vois pas grand chose, elle est malheureusement par rapport à tout le reste du film pas très bien filmé,
c'est fouillé aussi,
ouais, tu comprends pas ce qui se passe. Alors bon c'est pour recréer le tumulte et des batailles etc, mais bon 2 ans après t'as le Seigneur des Anneaux qui sort et qui fait quand même des batailles vachement plus faciles à lire en Heroic Fantasy, ou même film de bataille Kingdom of Heaven qui a des belles batailles assez bien chorégraphiées qui sort je crois en 2004 je crois.
La bataille d'Eragon est mieux,
la bataille
oh, ça fait mal.
Est mieux, oui je suis assez d'accord.
Je pense que ça vient du fait qu'à ce moment-là du film, on n'a toujours pas vraiment vu les méchants. Et c'est un truc classique dans les films un peu fantastiques, un peu d'horreur. C'est à quel moment, en fait, tu montres tu dévoiles vraiment le méchant de façon très visible à la lumière. Et c'est uniquement à la fin de cette bataille que tu t'aperçois que c'est pas des ours et que c'est des mecs avec une coiffe d'ours. Et donc, c'est un truc un peu paradoxal. C'est en même temps un gros morceau de bravoure. Il y en a plein, il y en a des dizaines à l'écran, mais on essaye de jamais vraiment les montrer. On montre uniquement des espèces de silhouettes et c'est vrai que ça fonctionne pas super bien. Là-dessus, je suis d'accord.
Après, il y a le début de la bataille quand juste ils sont en train de jeter leurs torches pour mettre le feu aux barricades, etc., qui fonctionne bien. Enfin, pour le coup,
Dès qu'il y a des flammes à l'écran, ça marche. Parce que ça fait des jeux de contraste et d'ombre parfaits, mais alors dès qu'il n'y a pas. Le problème, c'est que ce problème, tu l'as pas que sur les scènes de bataille, tu l'as aussi dans des scènes normales où bah du coup tu vois pas bien et
voilà. La première scène de bataille aussi c'est pas très lumineux, la scène où ils sont dans la caverne, moi il y a moins de persos et vu que c'est genre dans une espèce de couloir c'est plus facile de suivre, mais
D'un premier bataille, tu vois, j'entends l'argument d'Eric pour la première bataille qui est, bah, c'est un peu, genre, on voit pas trop à quoi il ressemble, on sait pas trop qui c'est. Le truc, c'est effectivement découvrir les méchants au bout d'une heure de film, pardon, sur un film d'1h40, bah, ça rend toute la fin de l'histoire, la deuxième partie après la deuxième bataille, finalement assez court en fait. Ça prend assez peu de temps, l'infiltration, toute la scène dans la caverne et tout.
Parce que c'est la montée de la tension, de tu sais pas ce que c'est. En fait, le mystère de qu'est-ce qui les attaque, c'est un peu le centre du truc.
Ouais, ça me choque pas, moi, de révéler sur le tard ce genre.
Mais je comprends qu'en termes de rythme, ça fasse quand même un peu précipiter la fin du film, ouais.
Ça précipite la fin, et en vrai, ok, on sait pas ce que c'est, mais quand il comprend que c'est des humains, bah le reste est tout aussi fouillis. Enfin, c'est quand même dommage parce que bah sur les trois grosses batailles, il y en a deux où tu vois que dalle parce qu'ils sont dans le noir, quoi.
J'aime bien la première quand même. Moi, j'aime bien la première scène de l'embuscade parce que le côté mystérieux des ennemis était très visible. Et en fait, dans la deuxième, on se rend compte au bout d'un moment, mais en fait, très rapidement, tu te rends compte que c'est des humains en fait. Et avant même qu'ils arrivent à les démasquer. Et c'est vrai que ça marchait sur la première bataille, ce côté mystérieux. Ils retrouvent pas les corps et tout. Et après, ça perd vite de son charme en fait.
Bah ouais, puis la première bataille est aussi très organique. Et la deuxième, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est dommage. Quand c'est sombre et avec des trucs organiques, ça rajoutait un style, ça donnait un truc un peu stylé. Enfin, vraiment stylé, tu vois. Pourtant,
tu veux dire quoi par organique, excuse-moi?
Bah, les décapitations, les têtes qui sont arrachées, tu vois, c'est quand même assez visuel.
Ok, ouais.
Et dans le deuxième, bah, les coups, ils font mal, mais sans plus. Il n'y a pas de grosses traces de sang, il n'y a pas de gens découpés en deux. Tu vois, c'est moins épique. Genre, 5 minutes avant, on a une décapitation d'un coup sec, quoi. Et je trouve les un peu moins épiques et c'est dommage, quoi.
Non, moi j'allais dire, pour vous c'était assez clair dès le début que c'était sur le thème heroic fantasy d'une certaine manière, avant qu'on ait un reveal que ça soit des humains.
Moi j'ai un principe qui est que si c'est un film qui date d'avant les années 2000 avec des vikings, c'est forcément de heroic fantasy.
D'accord, parce que pour moi en fait, comme j'ai lu le film, j'avais vraiment l'impression que c'est juste que comme c'était des vikings, ils attachaient du folklore à des trucs qu'ils pouvaient pas expliquer, mais que c'était très clairement ça pouvait être rien d'autre que des humains. Alors, j'ai commencé à avoir un petit doute pendant la première bataille.
J'ai une petite question pour vous, c'est en ce qui concerne les méchants, parce que moi effectivement à la première vue j'étais pas tout à fait sûr, et après j'ai lu le bouquin etc. Vous comprenez que c'est quoi les Vandals au-delà du fait que c'est des humains, c'est quoi comme type de...
C'est des hommes primitifs, c'est des hommes des cavernes.
Ok, bah en fait c'est des hommes de Néandertal, donc c'est pour ça que t'as des Vénus préhistoriques. C'est que ça part d'une vieille théorie sur laquelle les humains modernes et les hommes de Néandertal ont coexisté. Donc en fait, c'est une espèce d'énorme récit super geek de la part de Crichton, où il a pris des trucs scientifiques mais véridiques, et il a mélangé ça avec Beowulf et avec cette théorie sur laquelle, bah, pendant un certain moment, je sais pas à quel point c'est réel parce que je connais pas bien les différentes successions au niveau d'évolution, mais les hommes préhistoriques et du coup potentiellement les vikings ont pu coexister. Alors, je sais pas.
Mais si ça a eu lieu, ça, a priori, c'est il y a plus de 40 000 ans. Hein.
Alors, je pense pas, oui, mais en fait, je te parle pas de la vraisemblance
du truc. Ouais, ok, il a amalgamé des trucs qui lui plaisaient, quoi. Ok, d'accord.
Et sachant que ça, c'est un truc, je crois qu'il a dit ça à l'époque où il a sorti le bouquin, ou avant qu'il écrive son bouquin, en gros, donc Beowulf, c'est des poèmes, je crois, c'est l'Edda, dans l'Edda poétique, il me semble, que t'as le poème de Beowulf, donc un héros viking, etc., qui combat un dragon, il a un bouclier, machin, etc. Enfin bref, c'est un
gars. Et il tue le bras de Grendel.
C'est ça.
Et ensuite, il va combattre la mer, etc. Donc c'est pour ça qu'on insiste autant sur la mer, etc.
Et l'Edda poétique qui est assez, qui est assez anachronique en fait par rapport, qui a pas été fait pendant l'ère viking. En fait, ça a été fait bien plus tard. Mais voilà, c'est ce qui nous rapproche le plus sur la mythologie nordique, notamment sur les mythes et légendes scandinaves. Et en gros, Crichton aurait dit en fait que le poème de Beowulf, il s'ennuie, il trouve ça chiant, et qu'en gros, c'était un peu sa take de, moi, je vais rendre Beowulf vachement mieux en fait. Ouais. Apparemment, c'est ça la rumeur de ce qu'il aurait dit pour le bouquin, quoi.
Mais à rigueur, pourquoi pas, ça peut, tu vois, reprendre un mythe, tu vois, des gens qui reprennent le mythe de d'Abraham, attends, celui qui est, non, de Moïse, pardon, tu vois, le gamin qui est abandonné dans un berceau, qui est retrouvé, qui finalement se retrouve à guider un peuple, ça a été repris de façon métaphorique dans plein de films, et ça fait super bien. Donc moi,
c'est que ça, hein, l'épopée d'Ulysse,
oui, c'est ça,
au Grover.
Ouais, en vrai, moi c'est marrant parce que pour le coup, le film, quand je l'ai vu, bah, j'ai bien kiffé. Enfin, là, tout ce que vous me dites, oui, effectivement, il y a des trucs qui sont sombres et tout, mais bah, j'ai bien kiffé. Et là, le fait que tu me dises que c'est censé être des hommes de Néandertal, en fait, d'un seul coup, je me sens un peu trahie. Je me dis, mais j'ai pas compris. Pourquoi j'ai pas compris ?
Mais c'est pour ça que tu les vois avec des grosses arcades sourcilières. Ouais. À certains moments, mais bah c'est vrai que c'est pas clair du
mais
tout.
Mais c'est pas clair du tout. Temps, bah, eux,
c'est des Vikings du 12e siècle. Ils peuvent pas utiliser le terme homme de Néandertal.
Non, bien
quoi.
Sûr. Mais vraiment, le fait que je t'avais pas été mis en avant et que j'ai pas compris, j'aurais compris ça. Genre, j'aurais été trop hypée. Ouais. Et je l'ai pas compris. Là, je suis alors, ah, mais film, tu me déçois un peu. C'est dommage.
Mais je l'ai compris au deuxième visionnage. Et ensuite, ça a été la confirmation par le bouquin.
Bah moi je les avais pas imaginés comme homme de Néandertal, mais vraiment comme homme des cavernes. Moi je me suis demandé si c'était pas une référence genre à des peuples celtes ou proches comme les Pictes ou les trucs comme ça, et je me suis dit ok, c'est vraiment le choc entre bah du coup la civilisation arabe qui est vraiment à son apogée, en tout cas enfin on dit souvent que c'est l'apogée du monde islamique à cette époque là et les Vikings qui paraissent très bruts de coffrage et puis en fait qui ont une culture beaucoup plus fine qu'il n'y paraît au premier abord, et par contre les hommes des cavernes qui sont dénués de toute civilisation, de toute organisation. Et c'est pour ça que du coup les Arabes, les Vikings, et ça j'ai trouvé ça chouette en vrai comme thématique. Apparemment c'est la raison pour laquelle ça a floppé, parce que les gens, enfin les Américains, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il va nous raconter, une histoire d'Arabes et de Vikings, on s'en bat les couilles. Voilà, moi j'avais entendu des rumeurs comme quoi
en tant que ça peut pas de burger.
Bah, moi j'avais entendu parler que ça avait été pas mal déprécié à cause du côté de montrer sous un bonjour les Arabes, mais souvent moi j'ai plus l'impression que le thème anti-arabe des Américains vient surtout de après le 11 septembre. Et en même temps, il y avait eu la guerre du Golfe avant, donc je sais pas si c'est lié ou pas.
Les Américains racistes depuis longtemps.
Non, mais oui, non, mais voilà. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ils auraient pas vraiment apprécié en fait la thématique de ce récit.
Grégoire.
Yes. Quand j'ai fait le deuxième visionnage du film, surtout, j'ai compris que c'était des hommes préhistoriques parce que ils ont la même gueule que les clans ennemis dans Far Cry Primal. Genre, réellement. Ouais, soit Ubisoft, hein.
Wow.
Mais genre, ils ont la même gueule, la même façon de s'habiller, la même façon. Tout y était, je te dis, bah ouais, ok, c'est. Pourquoi ils sont là, je sais pas.
Est-ce que c'est une sponsor de. Ils te payent ?
Mais non, parce que surtout, j'aime
partage,
pas Ubisoft.
Partage,
j'aime pas Ubisoft en plus, hein, des ordures.
Mais pour le coup, en vrai, c'est assez logique, mais tu sais pas pourquoi trop, il y a une espèce de chamane qui utilise du venin. Enfin, il y a un côté mi-fantastique.
Moi, je regrette qu'ils soient pas allés plus loin, qu'ils aient pas fait une sorte de truc genre Conan, quoi.
Exactement, exactement. Oui. C'est. Voilà, bah, t'as dit le mot Conan. Moi, c'est ce que je pensais voir au début, parce que je savais pas qu'il y avait un twist. Et quand, en fait, le twist pas fantastique, j'ai trouvé ça à la fois cool, qui démystifie, en fait, qu'au final, c'est des légendes et que les légendes, en fait, se basent sur du réel et tout. Et en même temps, j'avoue que l'aspect low fantasy à la Conan et tout, ça aurait été un peu cool.
C'est vrai que c'est le truc qui manque pour moi dans ce film. Bon, après, il fait déjà 1h40, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de lore.
Ouais, c'est ça.
De l'univers, enfin, de
voir le building. Et comme il est pas long, bah, je peux te le passer si tu veux, 150 pages.
J'aurais la flemme de le lire. Je vais être honnête avec toi, j'aurais clairement la flemme. Mais j'aurais bien aimé le voir.
Et c'est bien expliqué que c'est des hommes de Néandertal dans le bouquin, ou c'est d'accord?
Alors, c'est expliqué surtout dans l'annexe à la fin, mais oui, tu comprends un peu mieux. Après, il y a aussi, moi, je suis assez fan de Mike Tiernan, donc en fait, il y a aussi, par rapport à ce réalisateur-là, ce récit dans cette carrière, etc. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a plein de trucs qui correspondent à fond dans cette thématique. C'est-à-dire que tu prennes le premier Die Hard ou à la poursuite d'Octobre Rouge, il y a énormément des histoires de conflits entre des gens de nationalités différentes, Hans Gruber, tu vois, et Octobre Rouge, c'est des Russes contre des Américains. Et justement, t'as aussi le même jeu sur le langage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il apprend le langage des Vikings. Et dans la poursuite d'Octobre Rouge, pour faire en sorte que tous les Russes ne parlent pas russe tout du long, d'autant plus que le Russe principal, il est joué par John Connery qui sait absolument pas parler russe. En fait, il y a une scène au début où tu les vois parler russe, il y a un zoom sur sa bouche, et ensuite ça dézoome et il commence à parler anglais au milieu de la phrase à partir du dézoom, pour faire comprendre que oui, c'est des Russes, entre eux ils parlent russe, mais on va les faire parler anglais parce que ce sera plus simple pour tout le monde. Tu vois, t'as des petites ruses comme ça de mise en scène. Et dans la poursuite d'Octobre Rouge, ou sinon dans Predator, sur la différence de culture, sur le fait de se faire des guet-apens, tu vois, dans Predator, entre Schwarzy et le Predator, à la fin, t'as des ruses, des trucs comme ça, et je regrette qu'ils soient pas allés vachement plus loin. C'est-à-dire qu'on voit que les Vikings, ils sont smart, on voit que les autres, ils bouffent des crânes, et ils sont super retors. Ils auraient pu aller d'un côté vachement plus loin dans la sauvagerie. Et du côté des Vikings, elle est vachement plus loin, elle est transformée en des sortes de MacGyver Vikings trop rusés et trop marrants, et ça aurait été un truc qui aurait été plus réjouissant, surtout si tu rajoutes un côté un peu plus Conan. Et je trouve que c'est dommage que ce soit pas allé plus loin, en fait.
Pour la partie conflit des cultures et tout. Tu voudrais dire que John McTiernan a grandi pendant la guerre froide? Incroyable.
Non, mais c'est pas le seul réalisateur de sa génération. Mais c'est vraiment un truc très spécifique de lui. Mmh. Et déjà, dans son premier film qui s'appelle Nomad, c'est ça qui lui a permis ensuite d'être sélectionné pour faire le film Predator. C'était un truc où il se retrouve en fait en Californie et il découvre qu'il y a des gens qui sont des espèces de nomades pour le coup. Donc c'est plus ou moins des roms comme on dit, mais pas vraiment, mais qui sont en même temps à moitié des vampires, qui sont capables de pas dormir et en même temps de posséder ton âme et qui rendent fou certaines personnes. Et c'est un truc, le film est pas superbe, mais t'as des trucs d'ambiance très particuliers et très naturalistes que tu vas retrouver dans l'ensemble de ces films. Donc c'est pour ça que Predator s'est tourné dans la jungle, et là c'est énormément en décor naturel, y compris avec des lumières naturelles. C'est pour ça que c'est super super noir, c'est que du coup c'est éclairé à la torche quasiment tout le temps, quoi.
Et tu parlais Die Hard 1 pour le choc des cultures, mais c'est surtout Die Hard 3, je trouve, avec Samuel L. Jackson et, Bruce Willis et John McClane. Ouais. Après, par rapport au 13e guerrier, moi, il y a un truc que j'ai adoré et un truc que j'ai moins adoré. Truc que j'ai adoré, moi, je trouve que c'est hyper bien filmé. Et hormis les scènes trop sombres, et ce qui est un défaut, je trouve quand même que la photo du film est superbe. Tu parlais du travelling dans la forêt là. Enfin, t'as pas dit travelling, mais tu parlais de cette séquence dans la forêt, la lumière de la forêt, elle est folle.
Oui, non, à part la lumière, c'est.
Ouais, oui.
C'est chouette. Hein.
Les flambeaux qui descendent la montagne et tout.
Ouais.
C'est
ouais, et
la scène sous l'eau aussi, c'est super.
Et la manière qu'il a de filmer, ça pareil, en faisant mes recherches pour préparer la mise en contexte, voilà, où il a cette manière de filmer presque semi-documentaire en fait, apparemment qu'il voulait vraiment donner, et même la musique à l'origine qu'aurait dû habiller le film devait être un truc vachement plus immersif, plus tribal, etc. Et je pense qu'on perd ce que tu reproches dans le côté on n'y est pas allé assez à fond dedans. Je pense qu'on le perd quand même un petit peu dans le montage de Crichton, qui a voulu faire un truc beaucoup plus pas péplum, mais plus épique, plus aventure.
C'est compliqué de savoir en fait si ça avait été McTiernan exactement comment est-ce que ça aurait monté. Ouais, c'est ça.
On saura jamais. Hein.
Release the McTiernan cut. Tu vois. Voilà.
Par contre, chose que j'ai moins aimée pour ce film, c'est donc en gros pour le casting, bon voilà, il y a deux acteurs connus, il y en a un, il joue un rôle au début, c'est Omar Sharif, et l'autre c'est Antonio Banderas qui est au sommet de sa hype, hein, en vrai, dans la fin des années 90. Et en gros, les autres acteurs, c'est des acteurs, alors à la base pour Beowulf, ils voulaient caster le père Saxgard apparemment, mais ils ont pas réussi, et du coup en fait, c'était leur dernier choix, l'acteur qu'ils ont eu, que je trouve en vrai, même s'il est très mono-expressif, s'en sort bien. Mais en gros, les autres acteurs, ils sont pas mauvais, mais en gros c'était que des acteurs pris sur cassette casting en fait, des comédiens qui ont envoyé leur cassette à l'équipe de production et qui ont été pris, et leurs personnages sont osés au possible, on retient pas leur nom, leur mort n'a aucun impact sur le récit, on voit juste que leur groupe s'amenuise et que du coup ils sont dans la panade, mais à part Erger et Beowulf, vraiment les autres
dans le bouquin c'est pareil, c'est vrai que c'est dommage. Ouais,
ouais, c'est con pour 13 guerriers, mais en fait t'en as 3.
Ouais.
Là, ça aurait fait une partie JDR.
Oui, c'est vrai.
Mais Erger, j'ai adoré le personnage d'Erger.
Ouais, il est très cool.
C'est le meilleur personnage.
C'est le meilleur personnage.
Erger, Besger.
Ouais, okay. Non, clairement, il baisse de fou. Ouais.
Et du coup, non, il est. Bon, autre que l'acteur est très beau, il joue très bien, je trouve. Il a un rôle vraiment sympa. Il a des trucs du rôle où, tu vois, moi, dès le début, j'ai vu que Erger, ça va être le rôle du mentor. Comme on le voit dans pléthore de films de ce style-là. Et du coup, à partir du début du duel où il commençait à prendre tarif, je m'attendais à le voir crever à chaque putain de minute du film.
Mmh, ouais, moi aussi.
Et le fait qu'il l'ait gardé et que finalement ça soit un peu le seul survivant, qu'il lui dit au revoir, qu'il finit son voyage initiatique et tout, et qu'en fait il n'est pas mort, juste il se sépare parce que lui il reste en Norvège et que Antonio rentre chez lui. Je trouvais ça trop cool.
Oui.
C'est un truc, un plot qu'on voit rarement et que j'ai beaucoup aimé.
Mais d'ailleurs, il est pas le seul à survivre, hein, parce qu'il y a celui qui fait le scout, là, le gay qui survit. celui qui fait le gay.
Aussi, j'ai hésité de relever.
Il l'accompagne. Il y en a un autre qui survit. Je crois qu'ils sont trois en tout.
L'Écossais a survécu aussi, je crois.
ou peut-être.
Il ressemble à, j'ai vérifié, mais c'est pas le même acteur, mais il ressemble au mec qui joue Easy Hands dans.
Tout à fait.
Oui, merci, d'accord.
Dans quoi ?
Je suis d'accord.
Alors, Flag Means Death.
Ah oui.
Ouais. Je n'ai pas cette référence.
Trop bien, trop belle série de Taika Waititi, c'est des pirates.
Gay.
Ouais.
Okay. Et merde, quand je pensais, oui. Et d'ailleurs, sur la séquence finale du bateau, et moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué. C'est une petite anecdote rigolote. À un moment, donc, t'as un gros plan sur le visage de l'acteur qui joue Erger, et je pense que ça fait partie des scènes qu'ils ont re-shootées après les séances test, parce que si vous faites gaffe, il est vachement joufflu dans cette séance. Tu sens qu'il a repris un peu de poids, et du coup, il est tout mignon. T'as envie de lui tirer ses petites joues, parce qu'il est vraiment très beau, l'acteur. Ouais.
Bon, est-ce qu'on a fait un tour de un petit peu des avis de tout le monde? On passe au vote. Eh bah très bien. Écoute, Grégoire, le 13e guerrier, est-ce que tu le sauves?
Alors, j'ai beaucoup hésité parce que au début, je comprenais vraiment que dalle. Et en vrai, bah, bonne scène d'action, très belle image, l'histoire, en fait, c'est stylé, c'est cool, il se tape dessus, il y a des Vikings, j'ai bien aimé. Pourtant, j'aime pas tant les Vikings, donc oui, je le sauve.
Et toi, Galien?
Bah, comme je disais, en vrai, ça reste un bon film que j'ai quand même bien apprécié, je le sauve.
Très bien, j'y boite.
Très bonne surprise, je comprends pourquoi mon prof de ciné à l'époque l'aimait bien. Le film est très sous-estimé, je pense, quand même. Il a ses défauts, mais il fonctionne bien pour 1h40, très efficace.
Okay.
Ouais, pareil, c'est pas le meilleur McTiernan, il est un peu mid par rapport aux autres, mais ça reste un bon film parce que le mec sait y faire.
C'est un film.
Non, c'est un bon moment. C'est un bon moment à passer, je trouve.
Pour moi, pareil, en fait, au final, je suis un peu déçue, je le reverrai avec l'idée que c'est des hommes de Néandertal. Je suis un peu déçue de pas l'avoir compris. Je trouve que ça a pas été assez montré, mais clairement. C'était un bon moment, donc je le sauve aussi. Ça veut dire que nous sommes 5 autour de cette table et nous sommes 5 à l'avoir sauvé. Donc c'est officiel, le 13e guerrier, on le réanime et on lui donne plein de love.
On est très gentils pour cette début de saison.
Ouais. Bon, on a évidemment une recommandation, c'est d'aller voir le Rocky Horror Picture Show au Studio Galante. Ça joue tous les vendredis soirs avec les Panic Babies et tous les samedis soirs avec les Time Slips.
C'est nous.
Nous faisons partie exactement.
Voilà, nous-mêmes.
C'est nous.
C'est nous. Oui, c'est nous.
Non, c'est pas toi, Galien.
C'est moi.
Mais alors, c'est nous en partie parce qu'on est 25 en vrai. Mais...
Oui, oui, oui.
Et sinon, est-ce que quelqu'un aurait un film ou un livre à...
Oui, j'ai un film.
Un jeu même. Non, mais à
présenter, non.
Moi, j'ai un petit film à recommander. Alors, il sera plus à l'affiche. D'ailleurs, il commence à ne plus l'être et il sera pas à l'affiche au moment de la sortie de cet épisode. Mais si vous avez l'occasion de le voir, soit en louant une cassette à votre oncle, soit sur des plateformes légales, Life of Chuck. Je sais pas si vous êtes allé le voir.
J'en ai parlé. C'était ma reco il y a genre 2 semaines.
Ah, tu l'as fait déjà.
Il a déjà été recommandé.
Ah, merde.
Je crois que c'est pour Die Hard 5. C'est la reco Die Hard 5.
Et bah, tant pis pour moi.
Non, mais c'est trop. Vas-y, tu veux en reparler. Mais c'est trop bien. Donc, allez le voir.
J'ai chialé. Adaptation de Stephen King. Absolument fabuleuse.
De Mike Flanagan.
Voilà, c'est mon film préféré de l'année pour le moment.
Pareil.
Voilà. Mais du coup, ça a déjà été reco, donc nique-moi. Joue à Silk Song.
Non.
Est-ce que tu recommanderais le bouquin du 13e guerrier?
Si vous êtes déjà fan de Michael Crichton, oui, mais sinon pour débuter, je recommanderais plutôt Jurassic Park ou Les Voyageurs du Temps. Je sais plus si c'est exactement Les Voyageurs du Temps, mais une histoire de voyage dans le temps de Crichton, très sympa.
Je crois que c'est ça.
Ouais.
C'est tout. Merci à tous. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait des bisous.
Bisous. Bisous. Ciao.
Bisous.
Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, nous avons un petit jeu, un petit bonus. Alors au début, je voulais faire un quiz un peu cinématographique sur des questions, tout ça qui sont liées au film, mais je me suis dit, on n'a peut-être pas tous la même culture cinéma. Donc j'ai fait 3 petites questions assez simples, et puis après un autre jeu qui n'a pas forcément de rapport direct.
Pourquoi tu m'as regardé en disant on n'a pas tous la même culture cinéma?
T'as bougé.
D'accord,
vraiment,
ok, j'ai bougé. Très bien, j'ai bougé.
D'accord. Donc, la première question, c'est à base de whitewashing.
Alors, attends, on répond tous en même temps ça,
alors,
c'est,
premier jeu,
main,
vous, pouvez répondre, vous pouvez répondre le premier qui répond. Après, okay. On fera des petites équipes pour la deuxième partie, mais là, celui okay. qui veut répondre...
Et je note que pour une fois, vu que c'est toi qui fais le jeu, c'est pas toi qui va gagner le jeu.
Ouais.
Mais c'est moi qui gagne, c'est moi qui présente, donc je gagne à chaque fois. Donc, première question
moi,
à base
soit
de...
je gagne, soit j'apprends, donc je gagne.
Ah, c'est du développement perso de merde. Quand tu perds.
Entrepreneur, va.
C'est objectif ça, quadrillionnaire.
Et émoji fusée.
Oh la vache.
Ok, première question à base de whitewashing. Dans ces trois films, lequel de ces films n'utilise pas de whitewashing, donc c'est-à-dire prendre un acteur blanc ou de pas la bonne nationalité pour jouer une autre nationalité, parce qu'au final, on s'en fout. On connaît pas assez. Alors, petit A, est-ce que c'est Gods of Egypt? Petit B, est-ce que c'est NCIS? Non, celui qui n'utilise pas.
Le truc, c'est qu'il y a plein de persos dans chaque film.
Oui.
Non, mais qui n'utilise pas.
Qui n'utilise pas.
Ah, qui n'utilise pas.
De whitewashing. Petit A, c'est Gods of Egypt qui n'utilise pas de whitewashing. Petit B, c'est NCIS qui n'utilise pas de whitewashing. Ou petit C, c'est Prince of Persia qui n'utilise pas de whitewashing.
C'est NCIS.
Non, ils utilisent tous du whitewashing.
Oui.
Ah, c'est
les trois.
J'ai pas vu NCIS, mais
genre
mais
NCIS, c'est une série NCIS. Et,
oui, mais
c'est une série. C'est une agent du Mossad, Ziva, mais en fait c'est une actrice brésilienne.
Et Dinozzo, pas du tout.
Et Dinozzo n'est pas du tout italien.
Pas du tout italien.
Vous êtes vachement calé.
Par contre, le bleu, non, vraiment bleu.
Mais Dinozzo.
Mais toi aussi.
Mais c'est un mec d'origine italienne, comme il y en a beaucoup aux US, c'est tout.
Oui,
mais oui, t'as jamais regardé NCIS?
Jamais.
Moi
je regardais FBI porté disparu sur France 2.
Et Ziva qui comprend aucune des expressions.
D'accord.
Et non, pour moi, le pire whitewashing de cette série, c'est, j'ai oublié son nom, la gothique qui n'est pas vraiment gothique.
Abby.
Et le jour où j'ai découvert ça, parce que moi c'était une série de mon enfance.
Pareil.
Donc c'est ce qui m'a fait un peu rentrer dans le truc des gothiques et tout, parce qu'elle est trop belle. Et quand j'ai eu 13 ans, j'ai découvert qu'elle n'était pas gothique du tout et qu'elle était très très vieille, j'ai très très mal vécu.
C'est cette série là, d'accord, j'ai déjà vu des extraits, ouais.
L'agent Gibbs.
Oui, ouais, elle appuie sur trois touches sur un clavier. En même temps que le bleu, et t'as 12 000 fenêtres qui apparaissent, c'est complètement stupide.
Ouais, j'aimerais être aussi fort en informatique qu'elle, clairement.
Moi, c'est cette série qui a développé mes débuts de Daddy Issues avec Jethro Gibbs. Voilà.
Alors, si tu veux, j'ai plein d'infos sur la série qui te fera partir tous ces Daddy Issues avec Jethro Gibbs.
Ouais, non, je sais que c'est pas un mec très ouf.
Pas fou.
Alors, question numéro 2. Lequel de ces films avec un chiffre dedans n'existe pas?
Oh la vache.
Alors, 8 heads in a duffel bag, donc 8 têtes dans un sac. Réponse B, 55 days in Pekin, donc 55 jours à Pékin. Ou réponse C, 16 corpses, qui a été traduit par 16 morts et un fossoyeur.
Le premier, moi je dirais.
Ça va pas être le troisième, sinon la traduction serait pas aussi éloignée.
Aucun n'existe.
Non,
j'aurais tenté.
C'est le C qui n'existe pas.
Ah, c'était
justement
le troisième.
J'ai inventé une traduction et tu es tombé dans mon piège.
Je ne connais aucun des films. Du coup, t'as bien fait de me regarder tout à l'heure.
Je connaissais que le deuxième, moi, mais voilà.
Et dernière question, dans quel film Antonio Banderas n'a pas joué? A, Entretien, ça va aller très vite. A, Entretien avec un vampire. B, Spy Kids 3. Ou C, 16 Corpses.
Entretien avec un vampire.
Mais non, c'est le 3.
Non,
ça
non, il joue dedans, il fait un tout petit rôle, mais
il joue Armand.
Ah ouais? Ah merde.
Non, Entretien avec un vampire?
Ouais.
Oui.
Faut que je le revoie, ça fait une éternité.
Ouais, faut que je revoie Spy Kids 3.
Et dans quel film Antonio Banderas n'a pas bandé?
Je voulais faire justement, je voulais faire un jeu de mots avec ça, mais je n'ai pas fait de jeu de mots avec ça.
Ouais,
parce que j'ai
fait pour toi.
J'ai un jeu.
J'avoue qu'Antonio Banderas, ouais, c'est une promesse en fait.
Ah, c'est vrai.
Alors, mon jeu, comme il n'y a pas assez de scènes d'amour et de sexe dans ce film, je me suis dit.
Alors, dans le bouquin, allez-y, hein. Alors, franchement, 150 pages, mais 50 pages de baise à peu près. Hein.
Allez, let's go.
C'était Léa Cor, ça, comme il n'y a pas assez de cul, genre, à voûter. Allez.
Alors, donc, mon jeu, c'est pour le coup. Donc, vous allez vous mettre en équipe, donc 2 contre 2. Donc, vous choisissez votre
je suis avec.
Je serai avec Galien par défaut. Je suis très content d'être avec Galien. Oui, j'ai vous encore un gap générationnel.
On fait de l'agisme.
Une question de rapidité, levez la main.
Ok.
Alors, levez la main avant de répondre.
Alors, pas comme Elon Musk, s'il vous plaît. Merci, Galien.
Non, mais.
Ah, pardon.
Alors, on lève la main quand on a la
réponse. Si vous donnez une réponse avant qu'on vous donne la parole, c'est le point à l'autre équipe.
Ok, bah voilà, c'est Eric qui fait les règles, même quand je ne sais pas lui le maître du jeu. Voilà.
Qu'enfer.
Alors, c'est très simple, c'est qu'il existe des films porno parodiques de vrais films.
Voilà.
Je vais vous donner
déjà fatigué.
Le nom du vrai film et vous allez devoir me donner sa version parodique.
J'adore.
Alors, Fast and Furious. Vous avez le droit de dire si vous tenez des bêtises, c'est pas grave, ça donne pas le point.
Putain,
là, en
je ah, bah si je crois que t'as levé la barre en moi.
Non, t'as fait avant.
Ah, Fist and Furious.
Oh, ça aurait été génial, ce n'est pas ça.
Oh.
Ça n'existe pas.
Non, je suis pas sûr, mais Fast and Curious. Non.
Non, c'est en anglais.
C'est anglais.
Ouais, mais ça aurait pu être des Français qui auraient.
Ce qui est horrible, c'est que je m'en souviens pas, mais je crois qu'on me l'a déjà raconté. Parce que ça me dit vraiment quelque chose et ça me traumatise de dire ça.
Putain, j'ai rien qui me vient.
Bon, je vais vous le dire, c'est Fucking Furious.
Bah oui, c'était évident en fait.
En fait c'est tellement nul. Le mien était trop poétique en
le
fait.
Le tien était ouais. Alors, un français cette fois, Cocorico, le grand bleu.
Attends, c'est quoi ah, c'est
la
juste le grand bleu.
Non.
Le grand, la grande bite. Enfin.
Non.
Ah, non, c'est ce que j'allais dire, mais.
Oui.
Le gland bleu.
Oui.
Vache.
Yes.
Alors, il y en a quelques-uns qui, ceux-là sont ceux qu'on peut deviner. Il y en a quelques-uns que on ne peut probablement pas deviner, mais je les ai trouvés géniaux.
C'est un film porno en Antarctique, le gland bleu. Pardon.
Putain.
Alors, les visiteurs.
Les visiteuses.
Oui.
Ah, ça c'est connu, oui, oui, oui.
Celui-là va être rapide, je pense. Le Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anus.
Oui.
Je l'avais.
Donc on est pour 2-1. Total Recall. Oui.
Total Facial.
Non.
Total Rectum.
Non, il a dit avant.
Anal Recall.
Non, non plus, mais on se rapproche, Galien.
T'avais dit quoi, Galien?
Total Rectum.
Total Recall.
Recall.
Je le dis avec un accent nul pour.
Total Fécal.
Non.
Je sais pas.
Total Anal.
Non.
Non.
Non, vraiment, Rectum, t'étais pas loin.
Ah.
C'est total rectal.
Wow, tu pouvais donner.
Ah, oh, oui, oui, oh, oui, 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 il l'avait. Total rectal, incroyable.
J'adore.
Alors, Matrix.
Non, en fait, je l'avais pas. J'ai levé la
main.
Le
Matrix.
Oui.
Bah
oui.
Ah oui, on l'a tous.
Celui-là est génial, mais indévinable. Mais j'ai très envie de le partager. Les 4 fantastiques. Le nom est en français. Enfin, le nom de la parodie est en français.
Oui. Les 4 fantastriques.
Franchement,
je voulais dire la même chose.
C'est presque ça.
Ah
je
ouais
pense que si personne ne trouve le point,
okay,
tira. Oui.
Les 4 fantasbites.
Non. Non, personne. Oui.
Les 4 fantaschibres.
Non, c'est les 4 fantes. Astique.
Oh, les 4 fantastiques. Waouh.
Ils sont forts, les cons. Ils sont très forts.
Sont forts.
Admiratif.
Alors, ouais, après, bon, alors, j'ai donné le dernier qui est trouvable. Après, je pense que je vous les donnerai. Full Metal Jacket.
Non, vas-y, vas-y.
Non, j'ai pas encore.
Je crois que je connais. Enfin,
C'est en français aussi, la parodie.
Ah,
je suis nul, je suis trop pur.
Ah, en français, Full Metal Jacket, mais en français.
Pas Full Metal Branlette, un truc comme ça?
Non.
Ah, ça aurait pu, ouais, de ouf.
Et c'est dans cette idée.
Full Metal Braguette.
Pas mal, tu mets toujours pas
joli,
ça, ça ressemble,
hein.
Mais c'est. Ouais,
c'est trop poétique.
Est-ce qu'il y a Full Metal dedans?
Oui, il y a Full Metal dedans.
D'accord.
Mais oui, je sais qu'il y a Full Metal, mais je sais plus c'est quoi le troisième mot. Parce que je l'ai déjà vu passer quelque part.
Ah, mais attends.
Full Metal Levrette.
Non.
Oh, c'est beau.
Ah, c'est putain.
Ce serait incroyable.
Attends, Braguel.
Branlette.
Non, non, pas Branlette.
Je l'ai dit.
Ça ouais. Branlette.
Non, t'inquiète.
Levrette. Attends, un truc avec Jack.
Full Metal Caquette.
Oui.
Il est trop pur.
Full Metal Caquette. Moi, on est à 4-2.
Ah bon?
Oui.
Ah ouais.
Il y a eu un. Ah non, 4-3.
Ouais, okay.
Il y en a un que t'as trouvé.
J'aurais dit 3-3 même, mais.
Non, ouais. C'est parce que je t'ai accordé le fantastique.
Ah oui, c'est vrai,
ouais, bah,
merci.
4-3 pour moi.
Chais.
Alors, bon, ceux-là, je pense que je voulais les dire, mais c'est juste pour votre culture. Le bon, la brute et le truand.
Bah, le bon, la pute. Attends, et le truand.
Non.
Mais laisse-nous essayer de trouver.
Non, je vais pas vous le dire tout de suite.
Ah
pardon.
Non, oui, mais. Enfin, c'était non, mais si vous avez. Je vais vous laisser un peu de temps.
Le bon, la pute et le.
Alors,
et le gros gland.
Non. Alors, ouais, je vais juste vous aider. Le bon et la brute, ça reste.
Le bon, la brute et le.
Et la salope, un truc comme ça, non?
Non.
Le bon, la brute et le gland?
Non.
Attends.
Et l'éléphant.
Et le fion blanc.
Le
non.
Bon, la brute. Ça finit en an, je
oui
suppose. Ouais, ça garde le jeu de mots, ouais.
Et le fond de banc?
Non.
Le bon, la brute.
Oh, il est énervé celui-là.
Ouais. Le bon, la brute
et... Non, je l'ai pas, moi, je vais pas avoir.
Le pénétrant.
Ah, c'est pas con.
Ouais, c'est non, pas... c'est trop gentil.
Oui, c'est,
pas ouais,
c'est trop
hard.
Poli.
Il est hard.
Ah, attends, s'il est hard.
Ah, genre, si... ah, s'il est hard.
Attends, là, ouais, comment
mais non, je cherchais dans notre vocabulaire.
Gland.
Non.
Je cherchais dans notre vocabulaire quand s'il est hard.
Ouais, moi, t'es le gros gland, ça aurait pu. Ouais.
Comment on dit prolapsus en français
Pas prolapsus.
Ouais, non, non. Un truc comme ça, tu vois, genre je me dis.
Ouais, c'est dans ce délire-là.
Non, bah ça doit être un. Attends.
Le bon, la brute et la descente d'orgueil.
Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je...
Vas-y.
Le bon, la brute et le viclan.
Non.
Parce qu'ils sont ça très drôle.
Moi, j'aurais pensé à un truc, je pense, c'est rapport avec une pénétration, un terme pour une pénétration
c'est
quelconque.
Non. C'est non.
Ah, non, d'accord.
Ah ouais
Non.
Ils sont raffinés ces gens-là.
Non, vraiment pas. Ouais, est-ce que vous voulez que je vous le dise C'est le bon, la brute et le trou béant.
Voilà. On aurait pu trouver en cherchant un peu.
On aurait pu creuser un peu. Oh, attends, ouais,
c'était pas l'acte qu'il fallait chercher, c'est l'objet.
Oui, c'est ça. C'est...
la partie du corps humain.
Ouais.
En vrai, celui-là, je pense que vous pouvez l'avoir. Banane mécanique. Merde.
Orange mécanique.
Ah, j'écris le nom de. J'écris mon.
T'aurais pu faire jouer l'inverse.
Voilà pour le coup, je oui, pense que
on l'aurait trouvé quand même.
Banane bon, bah, mécanique. J'adore.
Et le dernier, donc, c'est les aventuriers de l'Arche perdue.
Faut qu'on le trouve.
En français toujours.
En français toujours. Et il est vraiment c'est le plus dur.
Ah ouais.
Est-ce que ça commence par les aventuriers?
Les aventuriers.
Okay. Bah c'est ouais. Oh, putain, ça doit être un truc genre les aventuriers du Kama Sutra perdu ou un truc comme ça.
Vraiment, l'allitération, enfin comment dire, le son reste, c'est vraiment le même délire de son.
Du derche perdu?
Presque.
Ah putain. Ah, du derche hyper dur.
Oh, pas mal, mais non. Après, faut réfléchir à ce que c'est, ce que ça, un derche, les attributs.
Les aventuriers du.
De la chatte perdue?
Non, c'est cul, visiblement derche, mais.
C'est vraiment derche. Ouais.
Ok.
Derche aperçu.
Je pense que grâce à toi, on va pouvoir mettre le E pour explicite pour cet épisode.
Yeah.
Les aventuriers du fiac perdu.
Ah, c'est derche.
Je pense qu'il y a derche pour arche. Tu vois, arche perdue, derche quelque chose.
Ah, derche quelque chose, ouais. D'accord.
Les aventuriers du
derche dru.
Non.
Oh.
Poilu.
Oui. Il y a du derche poilu.
Putain, mais
j'étais sur derche pendu, mais je trouvais que c'était pas cohérent.
Je suis désolé, mais moi j'ai envie que ça soit le nom d'un film des gendarmes là en fait.
Et donc voilà, c'était ma super activité. Et juste aussi pour info, le Rocky Horror Picture Show, c'est le Rocky Horror Porno Video Show.
J'ai entendu Rocky parler, j'ai jamais regardé la parodie porno, mais je sais qu'il y a une parodie porno américaine.
Après, en fait, c'est marrant parce que tu nous dis genre t'as l'esprit trop pur, mais c'est toi qui nous a montré Flash Gordon, hein.
Oui.
Alors si
Flash Gordon, c'est érotique en fait. Tu vois pas.
Oui,
tu
c'est
vois
pas un film porno.
Et
c'est
puis les terriennes sont des filles faciles.
Oui, Earth Girls are easy.
Ouais.
Les terriennes sont non.
Objectif
terrienne.
Objectif terrienne.
Okay. Flash Gordon, je l'ai pris pour les cacas qui jouent du saxo.
Regardez Flash Gordon.
Non, je l'ai pas vu moi.
Regardez la bande annonce de Flash Gordon.
Moi non plus, je suis extrêmement intrigué.
Érotique de Flash Gordon, bah failli venir.
Couteau sport une soirée à deux.
Bon, je suis curieux.
C'était la fin du bonus, effectivement très explicite de ce podcast. Et on vous refait des bisous si vous êtes restés jusque là.
Bisous tout le monde.
Des bisous.
Ciao.